وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا إلا وأنتم مسلمون. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أون سيت سواري دو سامدي 4 ربيع الثاني 4 ربيع الثاني 1433 دو ليجير، سو كي كوريسبون افيك لو 25 فيفريي 2012 بإذن الله سبحانه وتعالى. Donc, nous sommes toujours avec Riyad Salihin, le cours numéro 60. Car la fois passée, on n'avait pas de connexion. Nous sommes toujours dans le chapitre, le contrôle permanent de Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muraqaba, la surveillance. On avait cité et expliqué les deux versets que l'imam Nawawi rahimahullah avait cités, et que Cheikh Ibn Outaymin, rahimahullah, a expliqué. Aujourd'hui, inshallah, le troisième, l'auteur, dans le chapitre, le contrôle permanent de Allah subhanahu wa ta'ala, le troisième verset, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans sourate Ali Imran, verset numéro 5, il a dit, « Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama » C'est-à-dire que rien vraiment ne se cache d'Allah Azza wa Jal, de ce qui existe sur la terre ou dans le ciel. Le Cheikh dit la yakhfa. Le Cheikh dit la yakhfa alayhi shay. Rien n'est caché d'Allah subhanahu Azza wa Jal. Il a dit fata'ummu kulla shay'in. Donc ça englobe toute chose. Fa kullu shay'in la yakhfa 'ala Allah fi al-ardi wa la fi as-sama. Toute chose, quelle qu'elle soit, elle ne peut échapper à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle soit sur terre ou dans le ciel. وَقَدْ فَسَّرَ اللَّهُ هَذَا فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Et Allah subhanahu wa ta'ala a bien expliqué cela dans le verset de Sourate Al-An'am, verset numéro 59, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il a dit, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. C'est lui qui détient les clés. لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. Nul autre que lui ne les connaît. يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَبِسٍ. Rien de frais ou de sec. إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Qui ne soit consigné dans un livre explicite. 659. Ensuite, je demande à l'admin, barakallahu fikoum, quand j'affiche un verset, vous m'écrivez un pour que je sois sûr que le verset a été affiché. قال العلماء لصابوندي إن كانت الأوراق الساقطة يعلمها. Je répète, c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Les savants ont dit, si maintenant les feuilles qui tombe, Allah subhanahu wa ta'ala les connaît. Et rien n'échappe à sa science. Ça, c'est en ce qui concerne les feux qui sont tombés. Qu'en est-il maintenant des feux qui vont éclore? On a dit, c'est sûr qu'il connaît ça, yani, par prédominance. Quant à Qawlou Ta'ala, lorsqu'il a dit, c'est-à-dire, et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Quand il a dit ça, et pas une graine dans les ténèbres de la terre jusqu'à la fin du verset. Quand il a dit cela, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Je vais expliquer ça, ce qu'il a dit. Je répète d'abord le verset. Le cheikh dit, ça, donc, ça englobe toute graine, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande. Il a dit qu'on donne un exemple, par exemple. Qu'on suppose, par exemple, une graine enfouie dans les fonds de la mer, dans les fonds de l'argile de la mer. Il a dit, cette graine sera donc dans cinq obscurités. La première, l'obscurité des sables dans lesquels elle est enfouie. La deuxième, l'obscurité de l'eau qui est au-dessus de la graine. La troisième obscurité, l'obscurité de la nuit, quand il fait nuit. L'obscurité, la quatrième, l'obscurité des nuages qui sont au-dessus du ciel. Et la cinquième, l'obscurité de la pluie qui tombe. Mais malgré ces cinq obscurités, cette graine qui est enfouie sous les plus profonds sables des fonds de la mer, sa connaissance ne peut échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, sans, vous lisez avec moi, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit consigné dans un livre explicite. Un livre explicite. Le Cheikh Ahmad a dit, c'est écrit. Hein, tout est écrit. C'est explicite. C'est clair. C'est apparent. C'est connu, عند الله سبحانه وتعالى. إذن من كان هذا ساعة علمه فعلى المؤمن أن يراقب الله سبحانه وتعالى. Le Cheikh dit, donc, quelqu'un qui détient une science aussi vaste que celle-là, n'est-il pas obligé pour le croyant d'avoir de la crainte envers lui, sachant qu'il nous surveille en tout temps et en tout lieu? Je répète, quelqu'un qui détient une science pareille, aussi vaste que celle-là, n'est-il pas donc obligé pour nous, nous les croyants, d'avoir de la crainte envers lui, quand on sait maintenant qu'il nous surveille en tout temps et en tout lieu, et que rien ne peut lui échapper? Ensuite, le Cheikh Rahimallah dit, wa an yakhsha fi sirri. Et on doit aussi craindre Allah subhanahu wa ta'ala quand on est seul, comme on doit le craindre aussi quand on est en compagnie des gens. Il a dit, mais le garant du succès, le garant du succès, c'est celui qui fait de yani, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il est seul, yani, elle devrait être plus grande chez lui que la crainte quand il est avec les gens. Car il a dit ici, car il a dit la crainte du Seigneur quand on est seul, c'est une preuve de quoi? C'est une preuve de la sincérité. Car il n'y a personne avec toi. Quant à craindre Allah subhanahu wa ta'ala en compagnie des gens, ça peut être à cause de quoi? À cause de, on veut faire l'ostentation, de la peur du Seigneur. Donc, il a dit, Fahres. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est toi seul que nous adorons. Et il n'a pas dit, nous adorons toi seul. Mais il a commencé par, c'est toi seul que nous adorons. Complément d'objet direct, c'est toi seul. Là, pour dire qu'il n'y a pas un autre que nous adorons, c'est toi seul. toi seul dont nous implorons secours. Il n'a pas dit nous implorons secours de toi seul. Non, c'est toi seul. Il n'y a pas un autre auquel ou là, duquel on implore le secours. Remarquez comment. Lorsqu'il a dit c'est toi seul que nous adorons, il a mis quoi ensuite? C'est toi seul dont nous implorons secours. Donc, même pour adorer notre Subhanahu wa Ta'ala, on doit quoi? On doit lui implorer le secours. C'est-à-dire que si Allah Subhanahu wa Ta'ala ne t'aide pas, tu ne peux pas l'adorer. Vous avez compris? Si Allah Subhanahu wa Ta'ala ne nous aide pas, on ne peut pas. D'ailleurs, si nous n'avions pas guidé, si nous n'avions pas choisi, est-ce qu'on serait musulman? Si on était musulman, supposons qu'il nous a choisi comme étant musulman, et des fois, il ne nous aide pas pour avancer. On est là en train de patiner et de reculer. Donc tu vois que, Allah subhanahu wa ta'ala, t'as demandé de quoi? T'as demandé de l'adorer et t'as promis qu'il y a un paradis qui t'attend et qu'il te préservera du feu. Mais ce n'est pas obligé pour lui pour qu'il t'aide. Vous avez compris? C'est comme si, pour que vous compreniez, que je fasse venir un peintre à la maison. On se met d'accord que s'il peint la maison, je lui donne tant par jour, ou bien tant pour le travail. Mais maintenant, quand il commence à travailler, je lui ai promis que s'il termine le travail, je lui donne telle somme d'argent. Mais je ne suis pas obligé de l'aider, vous comprenez? Je ne suis pas obligé de l'aider, yani, le faire ramener le matin par voiture, lui acheter à manger, le ramener le soir chez lui, l'aider dans les travaux, monter avec lui sur l'échelle. Tout cela, c'est pas obligé pour moi. Je lui ai promis que s'il termine le travail, je lui donne telle somme. On a fait un accord. La même chose, Allah subhanahu wa ta'ala. T'as promis. Il t'a demandé de quoi? De l'adorer. T'as promis qu'il va te faire entrer au paradis. Mais t'as pas promis, plutôt c'est pas une obligation pour lui pour t'aider. Mais il a dit, demandez-moi mon secours. Implorer le secours, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il voit quelqu'un qui s'agit de la religion, et qui lui fait des invocations, qui lui demande de l'aide, Allah subhanahu wa ta'ala le secours. Jamais il ne le laisse abandonner à Zawajal. C'est pour ça que déjà, tout ce que tu fais, comme ibadah, comme adoration, comme bonne, comme des choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime, comme aumône, comme prière, comme jeûne, tout cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a aidé. S'il ne t'avait pas aidé, Allah, tu n'aurais rien fait. Tu serais devenu le plus paresseux. Et t'aurais emmené vers l'autre chemin. Ensuite, l'aya rabia. Le quatrième verset qu'a cité l'auteur. Le quatrième verset, c'est Sourate al-Fajr, numéro 14. Inna rabbaka la bil mirsad. Car ton Seigneur demeure aux aguets. Inna rabbaka la bil mirsad. Car ton Seigneur demeure aux aguets. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que ce verset, Hadil Aya, où Allah subhanahu wa ta'ala a cité à sa fin un châtiment douloureux. Un châtiment douloureux. Hadil Aya, khatam Allah min. Ce verset ne commence pas comme ça. Ça, c'est la fin. La fin, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala est aux aguets, demeure aux aguets. Mais avant cela, qu'est-ce qu'il avait dit? Avant cela, qu'est-ce qu'il avait dit? Il parlait de Ad. Il parlait de Ad. Il a dit, dans Sourate al-Fajr, du verset 7 au verset 14, il a dit, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Attends, je vais voir si ça s'affiche ou pas. Non, pas celui-là. Non. Regardez ce verset. Non, est-ce qu'il s'est affiché? Non, donc je vais l'afficher par phrase. Regardez, hein. Il a dit, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhat al-'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Ad, la tribu de Ad? Non, avec les Ad. Avec Iram. C'est quoi Iram? C'est la cité à la colonne remarquable. dont jamais pareil ne fut construite parmi les villes. Parmi les villes. Non. Il a dit, et avec les Thamoud qui ont taillé le rocher dans la vallée. Qui ont taillé le rocher dans la vallée. Avec les Arabes qui taillaient les rochers dans la vallée. C'est-à-dire, avec Thamoud, c'est pas avec Arabes, c'est avec Thamoud. Je reprends le ayah. Thamoud. C'est-à-dire, Allah l'a dit, quand je coupe ici, écrit Thamoud. Quand ça s'affiche, ça s'affiche Arabes. Non, c'est pas Arabes, c'est Thamoud. Ça a été écrit, le T et le U. C'est-à-dire, donc, et avec Thamoud, la tribu de Thamoud qui taillait le rocher dans la vallée. Ainsi qu'avec Pharaon, l'homme aux épieux. Ainsi qu'avec Pharaon, l'homme aux épieux. Tous étaient des gens qui transgressaient et qui avaient commis beaucoup de désordres. Tous étaient des gens qui transgressaient et qui avaient commis beaucoup de désordres. Non. Ensuite, Allah Ta'ala dit, donc ton Seigneur déversa sur eux un fouet de châtiment. Hein? Donc ton Seigneur déversa sur eux un fouet de châtiment. Ensuite, il a dit, car ton Seigneur demeure aux anges. Donc vous avez remarqué que Allah Subhanahu wa Ta'ala n'a pas dit directement, car ton Seigneur demeure aux anges. Mais il a parlé des châtiments d'abord qu'il a donné à Ad, ensuite qu'il a donné à Thamoud. Ensuite, qu'il a donné au Pharaon. Ensuite, il a montré, il a dit, et ton Seigneur demeure aux aguets. Le Cheikh dit, rahimahullah, fait bayana, donc Allah subhanahu wa ta'ala a montré que, annahu bil mirsad li kulli tariya. Allah ta'ala a montré que chaque tyran, Allah subhanahu wa ta'ala demeure à ses aguets. Wa anna kulla tariyatin fa inna Allah ta'ala yuqsimu dahra. Et que chaque tyran, Allah subhanahu wa ta'ala va lui briser son dos. Voilà, yuqina et le décimera et l'exterminera. Il a dit, on va revenir un peu en arrière, il a dit, il a dit, avec les Ad, les gens de la cité Iram, à la colonne remarquable, dont les maisons sont construites sur de très solides colonnes, très solides colonnes. Qu'est-ce qu'il leur a donné Allah subhanahu wa ta'ala? Par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, quwwatan shadida. Il leur a donné yani une force, masha'Allah, une force. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour la force qu'il leur a donné, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'enflèrent, man. Ils s'enflèrent d'orgueil. Ils s'enflèrent d'orgueil. Et ils dirent quoi? Ils dirent, ils ont demandé, ils ont dit, qui est plus fort que nous? Qui est plus fort que nous, subhanallah, et dire qui est plus fort que nous. Quant au Had, ils s'enflèrent d'orgueil sur terre injustement et dire qui est plus fort que nous. Au lieu de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, remarquez ce qu'ils disent. Qui est plus fort que nous? Allah subhanahu wa ta'ala leur répondit. Il leur a dit, n'ont-ils pas vu en vérité que l'Azawajal qui les a créés est plus fort qu'eux? N'ont-ils pas vu qu'en vérité, l'Azawajal qui les a créés est plus fort qu'eux? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné ici, comme réponse, un dalil, une preuve de quoi? Une preuve de la raison. Il n'a pas voulu citer autre chose. Il leur a cité une preuve de la raison. C'est quoi cette preuve de la raison? Il leur a dit que celui qui crée est en principe plus fort que celui qui a été créé. Le créateur est toujours plus fort que la créature. Alors il leur a dit, ne voyez-vous pas que Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a créé est plus fort que vous? Non. Mais bien sûr, ils n'ont pas accepté cela. Ils n'ont pas accepté cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renié les signes, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans Fussilat. Fussilat, numéro 15, verset, sourate Fussilat, verset numéro 15. Il a dit, et il aura djahadou biha. وكانوا بآياتنا يجحدون. Ils reniaient nos signes. طيب maintenant, qu'est-ce qui leur est arrivé? فأصابهم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى les a punis en leur donnant une grande sécheresse. Une grande sécheresse. Et aucune goutte. Alors, ils ont commencé à demander à ce que l'autre parental fasse descendre de la pluie. Regardez, d'un côté, ils ne l'adorent pas, ils ne l'adorent pas, ne suivent pas sa charia, ne suivent pas ses messagers quand il les envoie, mais quand ils sont dans la contrainte, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent vers lui en demandant quoi? Qu'il leur donne de la pluie. L'autre parental a cité, il a dit qu'il leur a envoyé quoi? Il leur a envoyé un nuage qui était plein de sable et de poussière. Et ce nuage contenait un châtiment énorme qui allait faire, il y a un ravage qui allait faire ravage. Mais eux, quand ils ont vu ça, qu'est-ce qu'ils ont cru? Ils ont cru que c'était un nuage qui allait leur faire tomber de la pluie, qui allait leur donner de la pluie. Alors ils dirent, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ils dirent, فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا. Puis, voyant un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent, voici un nuage qui va nous apporter de la pluie. Voici un nuage qui va nous apporter de la pluie. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. Il a dit au contraire. Il a dit au contraire, c'est cela même que vous cherchiez à hâter. C'est cela même que vous cherchiez à hâter. Il a dit, c'est un vent qui contient un châtiment douloureux. C'est un vent qui contient un châtiment. Il a dit, c'est un vent qui contient un châtiment douloureux. Donc, le Cheikh Ahmed dit, ça rentre dans la sagesse de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, quand ils n'ont pas, yani quand ils n'ont pas voulu croire, ils ont bien cru, il leur a envoyé quoi? Un châtiment douloureux sous la forme de quoi? D'un nuage qui allait leur donner de la pluie. Donc, s'ils disent quoi? C'est une sorte de feinte, ce qu'on appelle une feinte. C'est une ruse de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a aussi des ruses qui lui conviennent. Et pourquoi il n'a pas envoyé carrément comme ça un châtiment douloureux? Pourquoi il envoie un nuage pour leur faire croire que c'est la pluie qui va tomber? Ensuite, il y a derrière cela un châtiment douloureux. Pourquoi? Car, s'il avait envoyé comme ça directement un châtiment douloureux, et ils auraient vu que ce nuage, et ils auraient compris que ce nuage allait être en fait un châtiment douloureux, donc ils se seraient préparés. Même s'ils ne peuvent pas se préparer matériellement pour contrer ce châtiment, mais du moins, dans leur cœur, dans leur esprit, ils sont préparés. Ils savent que c'est un nuage qui contient un châtiment, donc ils sont déjà préparés à cela. Mais quand par contre, ça vient du moment ou là, de l'endroit où on ne s'y attendait pas, yani on croit que c'est quelque chose de bien, alors que c'est quelque chose de mal, on ne s'y attendait pas, ça va faire beaucoup plus mal que d'envoyer directement comme ça, quoi, un châtiment. C'est-à-dire, si on peut dire en français, je leur ai envoyé ce châtiment alors qu'ils étaient tout espoir. Ils étaient tout espoir que ce nuage allait déverser sur eux une pluie abondante en eau et en bien. Comme ça, ça va faire beaucoup plus mal. Ça va faire beaucoup plus mal. Car lorsque le châtiment vient, alors que nous on espérait que c'était un bien qui nous attendait, alors que c'est un châtiment qui va venir, ça va faire vraiment, vraiment mal que d'envoyer directement un châtiment. Le Cheikh Ahmed a dit, c'est comme si quelqu'un, tu lui promets, par exemple, tu vas lui donner de l'argent, ou un bien, et il t'attend, ensuite, tu lui dis qu'il n'y a rien. Ou bien tu lui donnes un bien, tu C'est un cadeau, c'est pour toi. Il va être content, machallah. Ensuite, tu lui enlèves le cadeau, là, le bien. Ça va lui faire vraiment, vraiment mal. C'est un peu comme j'ai donné une fois cet exemple. Si maintenant on va passer par l'examen du baccalauréat et on va voir les résultats, et que je vais voir dans la liste, je vais pas trouver mon nom, ça veut dire que j'ai pas réussi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais avoir mal un jour, 2 jours, 3 jours, je vais pleurer, ça va passer. Mais imaginez maintenant que je monte dans la liste de ceux qui ont, quoi, qui ont réussi. Donc, c'est la grande joie chez moi, dans ma famille, je téléphone à tout le monde. Et deux ou trois heures, le même nom, c'est pas du tout mon nom, ils m'ont demandé excuse. Vous imaginez quel mal ça va donner. C'est beaucoup plus que te dire directement tu n'as pas réussi. Ça va faire donc, il y en a un effet vraiment, 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 il y en a difficile, difficile. C'est pour cela que, ça rentre aussi dans cette sagesse, c'est pour cela que le mécréant, quand il va mourir, il sera dans sa tombe. Quelle est la première chose qu'on va lui montrer? Quand vont venir les anges qui vont quoi? Qui vont le questionner. Quand ils vont lui questionner, ensuite, qu'est-ce qu'ils vont lui montrer? Ils vont lui montrer, lui ouvrir d'abord une fenêtre pour qu'il voit quoi? Pour qu'il voit sa place au paradis. Et là, bien sûr, quand il va être content, il va se dire donc, yani, donc j'ai réussi, donc j'ai gagné, donc ceci, donc cela, il va croire cela. Les anges, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Ils vont lui dire, tu vois, voilà quel aurait, voilà, yani, ton endroit, ou là, ta place au paradis, si bien sûr, tu avais obéi à ton Seigneur, tu l'avais adoré et suivi ses messagers. Mais par contre, puisque tu as fait tout à fait le contraire, voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a changé. Et on lui ouvre une autre fenêtre pour qu'il voie yani, sa place en enfer. Donc maintenant, si on lui avait montré directement sa place en enfer, peut-être qu'il aurait dit dans son cœur, je savais. Toute ma vie, je n'ai fait que des choses que yani, le Seigneur n'aime pas. Je n'ai ni adoré, ni rien. Je n'ai suivi que Satan et les tentations et les papiers. Comprenez? L'effet contraire est aussi valable. C'est pour ça que Yom Kiyama. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, avant de faire rentrer aussi, yani les croyants, les bien-aimés, les bien-élus, avant qu'il les fasse rentrer au paradis aussi, ils doivent d'abord aussi passer sur quoi? Passer sur le pont, Sirat, pour voir l'enfer aussi. Naam. Comme ça, quand tu vas rentrer au paradis, tu auras deux joies. La première joie d'être rentré, alhamdoulilah, et la deuxième, de n'être pas rentré en enfer. Car si on ne te montre pas l'enfer, tu vas comme ça directement au paradis, c'est seulement une seule joie. Il n'y a pas la deuxième. Tu ne sais pas qu'il y a un enfer terrible qui t'attendait, et que peut-être tu allais y rentrer, et que, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, t'as quoi? T'as sauvé. C'est pour cela que ça aussi, c'est une grande joie. Car, si on demande par exemple au kafir, on lui dit, regarde, on ne va pas te faire entrer au paradis, mais regarde qu'est-ce qu'il y a en enfer, on va seulement te sauver de l'enfer. C'est déjà la plus grande joie du monde qui puisse y avoir. Ça, Malik, il va dire, Ya Allah, ça ne fait rien, je ne rentre pas au paradis. Seulement préservez-moi de cet enfer. Donc, c'est dire que être préservé de l'enfer, c'est vraiment une grande joie. C'est pour ça que Allah Ta'ala a dit dans un verset, je ne l'ai pas ici devant moi, c'est, je crois, surtout le Baqara, si je ne me trompe pas. Il a dit, Baqara ou bien Imran, il a dit, Femen zuhziha anin nar, wa utkhila al janna faqad faz. Il a dit, Femen zuhziha anin nar, wa utkhila al janna faqad faz. Il a dit, quiconque sera détourné de l'enfer et rentrera au paradis. Celui-là, il a vraiment réussi. Donc il a cité deux choses. Il a dit, quiconque, quoi, sera préservé de l'enfer et rentrera au paradis. Il y a deux choses. Il y a être préservé de l'enfer et rentrer au paradis. Ce sont deux grandes ni'amas. Ce n'est pas seulement rentrer au paradis. Non. Et bon, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, qu'est-ce qu'il leur a envoyé? Il leur a envoyé un châtiment douloureux, terrible, sous forme de quoi? Sous forme d'une grâce, une ni'ma qui allait leur arriver. Vraiment content, masha'Allah, un nuage plein de l'arbre, plein d'eau. On va tous boire, on va tous yani, arroser les champs, masha'Allah, masha'Allah. Alors que lorsqu'Allah, qu'est-ce qu'il leur a envoyé? Un vent qui a dit, il a dit de lui, un vent, tout dammiru kulla shay'in bi rabbiha. Un vent détruisant tout par le commandement de son Seigneur. Au point où, il a dit, puis le lendemain, on ne voyait plus que leur demeure. Ainsi, nous rétribuons les gens criminels. Ainsi, nous rétribuons les gens criminels. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé un vent qui a tout détruit. Le lendemain, on ne voyait rien, plus rien, que leur demeure. Ainsi, on rétribue les gens criminels. Déjà, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala leur ait laissé leur demeure, c'est déjà quelque chose. Non, s'il avait voulu, il aurait englouti toute leur demeure. Aucune maison ne serait restée. Mais Allah subhanahu wa ta'ala veut laisser comme ça des fois les demeures. Pourquoi? Pour que ça soit un signe pour ceux qui vont venir après les habiter. Non. C'est pour ça, toi, quand tu vas habiter dans une maison pareille ou bien passer devant cette ville où il n'y a plus personne qui vit sauf les maisons, tu vas dire, subhanallah, hier il y avait des gens dans ces maisons, hier il y avait des gens dans ces palais, hier il y avait des gens qui vraiment vivaient à l'aise, fort aise, dans ces palais-là. Ils ont tout délaissé, ils sont partis. Tu vas dire, subhanallah, Allah subhanahu est vraiment fort et puissant. Non. C'est pour ça qu'il a dit dans un autre verset, il a dit, il a dit, il a dit, en parlant de certains gens, il a dit, et vous avez habité dans leurs habitations. Et on vous a montré ce qu'on avait fait d'eux. C'est maintenant comme on voit par exemple les pyramides. Les pyramides de Pharaon qu'il a laissé par exemple, que les Égyptiens ont laissé. Non, tu dis pas là. Tout ça, ils sont partis, ils ont laissé tout ça. C'est plein d'or, ils ont laissé plein d'or, plein de bijoux. Ils sont partis, ils ont délaissé tout ça. Qu'est-ce que sera, yani ça leur a servi de construire tout cela et de le laisser de partir pour se trouver éternellement en enfer? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé un vent, là, qui a duré 7 nuits et 8 jours, sans arrêt. Un vent violent qui a tout décimé et qui extermine tout dans son passage. Il ne laisse rien, subhanallah, sauf ce que Allah ta'ala veut laisser. Imaginez pendant 7 nuits et 8 jours. Pourquoi 7 nuits et 8 jours? Parce qu'il a commencé le matin. Et il s'est arrêté pendant Salat al-Maghrib. Non. Comme il a dit dans un autre verset, lorsqu'Allah a montré ce qu'il a fait d'eux, il a dit, nous déchaînâmes contre eux un vent violent et glacial en des jours néfastes, afin de, le faire, de leur faire goûter le châtiment de l'ignominie de la vie présente. Non, regardez ce verset. Nous déchaînons contre eux un vent violent et glacial en des jours néfastes afin de le faire goûter le châtiment de l'ignominie dans la vie présente. Et bien sûr, le châtiment de l'au-delà, bien sûr, est plus ignominieux encore. Et ils ne seront pas secourus, bien sûr. Donc ce vent qu'il a envoyé pendant 7 jours et 8 nuits, un vent yani, un vent violent qui décimait tout et en même temps glacial, glacial. Ça c'est par rapport au Had et Thamoud. Non, par rapport au Had. Quant à Thamoud, l'adina djabou sakhra bilouad qui taillait les rochers, ceux-là qu'est-ce qu'ils dirent? Ils dirent à leur messager qui s'appelle Salah, leur dire, كنت فينا مرجوا قبل هذا. نعم. يدير كنت فينا مرجوا قبل هذا. C'est-à-dire, il dit, ô Salih, tu étais auparavant une source d'espérance pour nous. Tu étais auparavant une source d'espérance pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, tu n'es plus. Ça veut dire que maintenant, tu n'es plus une source d'espérance. Ils ont dit même de lui que, il ne raisonnait pas, qu'il était à des faibles d'esprit. Et comme ça. C'est connu que le mécréant critique toujours qui critique toujours les messagers et les prophètes que l'Allah subhanahu wa ta'ala leur envoie. C'est pour ça qu'il a dit dans un autre verset, l'Allah subhanahu wa ta'ala dit, ainsi aucun messager n'est venu à leur prédécesseur sans qu'il n'ait dit de lui, c'est un magicien à posséder. Aucun prédécesseur n'est venu auparavant sans qu'il n'ait dit, sans que les mécréants n'aient dit de lui, c'est un magicien ou quoi ? Impossible. Toujours il dit ça. Quand ils ont dit ça de lui, qu'est-ce qu'il leur a dit Saleh ? Il leur a dit, alors jouissez de vos biens dans vos demeures pendant 3 jours. Jouissez de vos biens dans vos demeures pendant 3 jours. Voilà une promesse qui ne sera pas démentie. Et vous allez voir, Inch'Allah Ta'ala, ce qui va vous arriver après ces 3 jours. Bien sûr, eux n'ont pas cru. Bien sûr. Quand il leur a dit ça, il leur a dit, jouissez de vos biens pendant 3 jours. Voilà une promesse qui ne sera pas démentie. Et vous allez voir, Inch'Allah Ta'ala, ce qui va vous arriver. Quand les 3 jours se sont terminés, la terre a tremblé et ils ont entendu un cri. Un cri, subhanallah al-Azim, venant du ciel. Sûrement, Allah Ta'ala a ordonné un ange. Beaucoup de savants disent à Djibril ou bien Israfil, lui a donné un ordre de crier, un cri qui, déjà à l'entendre, déjà, on tombe. Déjà à l'entendre, on tombe. Non. Et un cri suivi de quoi? D'un grand tremblement de terre. Un grand tremblement de terre. Non. Et ils sont tous devenus comme quoi? Allah Ta'ala dit, comme des troncs de palmiers. De vieux troncs de palmiers. Imaginez un tronc de palmier, comme ça, jeté par terre. Ça fait des années qu'il est là. La pluie a tombé dessus, le vent, etc. Comment il devient tout noir, tout déchiré, Ça, c'est qui? Ça, c'est par rapport à Thamoud. Quant au pharaon, et qui va te dire c'est qui le pharaon? Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Moussa, alayhi salam, Moïse, il lui a dit. C'est quoi Rabbul Alamin? C'est qui le Seigneur? Le Seigneur des mondes. Bien sûr, il a dit ça, alors qu'il savait dans son cœur. Il savait c'est qui Rabbul Alamin. Il savait. Alors il a demandé au pharaon. Il a dit à Haman, il avait, c'est-à-dire un ministre. Il lui a dit, bâtis-moi une tour. Bâtis-moi une tour. Pourquoi? Il a dit, peut-être je vais atteindre les voies des cieux, et peut-être je vais apercevoir le Dieu de Moïse. Mais je pense que celui-ci est menteur. Bien sûr, quand il disait ça par moquerie, c'est-à-dire qu'il se moquait. Muslim, est-ce que vous m'entendez? Donc il a dit à son ministre, bâtis-moi une tour. Peut-être je vais atteindre les voies des cieux et ainsi je vais apercevoir le Dieu de Moussa. Il n'arrête pas de me dire qu'il y a un Dieu dans les cieux, mais bien sûr je pense qu'il est menteur. Il a dit tout ça par moquerie. Et remarquez, Barakallahu fikoum, remarquez quoi? Remarquez que Moussa, quand Pharaon a demandé à Haman de lui construire une tour pour monter voir le Dieu de Moussa, ça veut dire quoi? Les savants ont dit, ça veut dire que Moussa lui a dit que mon Dieu se trouve dans les cieux, au-dessus du trône. C'est pour ça que l'autre a dit à Haman, il lui a dit, alors construis-moi une tour. Il dit qu'il a un Dieu dans les cieux. Construis-moi une tour, je vais jeter un coup d'œil là-bas. Donc c'est une preuve que Moussa a dit au pharaon qu'il y avait un Dieu dans les cieux. C'est pour ça que les savants disent, Celui qui dit que mon Seigneur se trouve dans les cieux, au-dessus des cieux, au-dessus du trône, celui-là, il a un dogme moussaoui. Il a un dogme de Moussa. Il a un dogme moussaoui, comme Moussa alayhi salam. Celui qui dit que mon Dieu se trouve au-dessus des cieux, au-dessus du trône. Et ils ont dit, quiconque dit non, c'est pas vrai. Dieu n'est pas au-dessus des cieux. Il a dit, celui-là, il a un dogme pharaonique. Il a un dogme de Pharaon. Pharaonique. Pharaonique. Non. Donc, Moussa, qu'est-ce qu'il a, Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non, c'est pas vrai. Il n'est pas au-dessus des cieux. Il n'est pas au-dessus des cieux. Et Moussa lui a dit, tu sais fort bien, au Pharaon, que ces miracles, seul le Seigneur des cieux et de la terre les fait descendre. D'ailleurs, je te crois perdu au Pharaon. Non, pour ne pas vouloir me croire. Je te crois perdu. Donc, Moussa, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu sais fort bien, ô Pharaon, que ces miracles-là, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre comme des preuves, comme preuves illuminantes. D'ailleurs, certes, ô Pharaon, je te crois perdu. Vous avez remarqué ce qu'il lui a dit Moussa? Il lui a dit, tu sais, je suis sûr que tu sais que ces choses-là, ces miracles, viennent du Seigneur, Azzawajal. Et seulement tu ne veux pas le montrer. Tu ne veux pas le montrer. C'est pour ça que, d'ailleurs, il s'est tu, Pharaon. Quand Moussa lui a dit tu sais, est-ce qu'il lui a dit non, je ne sais pas? Il s'est tu. Ce qui veut dire que c'est un consentement, c'est un acquiescement que Pharaon savait que son Dieu, hein, qu'il y avait un Dieu qui se trouvait au-dessus des cieux. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit en parlant de Pharaon et de Saklik, il a dit, et ils nièrent les miracles injustement et orgueilleusement. Et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Sourate 27, verset numéro 14. Sourate 27, verset numéro 14. Il a dit, et ils nièrent les miracles injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Vous avez remarqué ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala en parlant de Pharaon et sa compagnie, il a dit, et ils nièrent, nier, ça veut dire tu sais, mais tu nies. Et ils nièrent les miracles injustement. Et par orgueil, donc c'est vrai. Et par orgueil, je ne peux pas dire comment. C'est Moussa qui a raison, ce n'est pas moi. Alors que moi j'ai dit à tous ces milliers de gens que je suis un Dieu aussi. Donc je ne peux pas dire, je ne peux pas reconnaître qu'il y a un vrai Dieu. Donc, le pharaon lui-même croyait en l'existence de Dieu, Azzawajal. Non, il croyait en son cœur. Mais il ne pouvait pas dire. Non, il ne pouvait pas dire cela. Voyez, il a dit, donc, Cheikh Ibn Rahimahullah a dit que Pharaon savait cela. Même si Junoud, ses soldats savaient cela. Mais ils étaient remplis d'orgueil et de fierté. Ils ne pouvaient pas reconnaître cette chose-là. Il a dit alors faisons un accord. En faisant un accord entre Moussa et le Pharaon, ils décidèrent quoi? De se donner rendez-vous le jour. On va choisir un jour et il a dit à Moussa, tu vas venir et moi je vais convoquer les meilleurs de mes magiciens, de mes sorciers. On va voir qui va gagner, si c'est toi ou si c'est lui. Et si c'est eux qui vont gagner. Alors il a demandé à Moussa de choisir le jour. Et Moussa a choisi le jour, un jour de la fête. A choisi un jour de la fête. Moussa a dit, votre rendez-vous c'est le jour de la fête. Et que les jours se rassemblent dans la matinée. Cheikh Ibn Othaymine dit, il a choisi dans la matinée et pas dans la nuit. Pour que l'épreuve soit vraiment visible. Pas dans la nuit, les gens vont dire, on n'a rien vu, on n'a pas compris. Il y avait des serpents, il y avait des bâtons, on n'a rien compris. On n'a rien vu, d'ailleurs, il faisait noir et obscur. Mais on a choisi le jour, en plein matinée. Salat Doha, c'était Salat Doha. Et année, on a rassemblé beaucoup de gens aussi, pour qu'ils soient comme témoins, ils soient comme témoins d'âme. Voyez, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé quoi? À jeter, à faire de la magie, disons à faire de la magie. On voyait comme ça, on voyait des choses et on voyait comme des serpents. Des serpents qui, subhanallah, comme ça devant tout le monde. Moussa a eu peur. Il a ressenti quelque chose en lui, il a eu peur. Allah lui a dit, n'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. Vous voyez, c'est pour lui raffermir son cœur. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, n'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. Jette ce qu'il y a dans ta main droite. Ça va dévorer ce qu'ils ont fabriqué. Car ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien. Et le magicien ne réussit pas où qu'il soit. Mousseline, est-ce qu'il y a le verset? Moussa a ressenti quelque peur en lui-même. Nous lui dîmes, n'aie pas peur. C'est toi qui vas vaincre. Jette ce qu'il y a dans ta main droite. Ça va dévorer ce qu'ils ont fabriqué. Car ce qu'ils ont fabriqué, c'est juste une ruse de magicien. Et le magicien, jamais il ne réussit, où qu'il soit. Et Moussa alayhi a jeté ce qu'il y avait dans sa main droite. Juste un petit bâton. Un seul bâton. Et voilà que ce bâton commence à tout avaler. Non. Voilà. Toutes les cordes qu'ils avaient jetées. Non. Et tous les bâtons qu'ils avaient aussi jetés, ils ont été mangés. Subhanallah, le cheikh dit, Subhanallah, toutes ces corps, tous ces serpents, comment qu'ils sont rentrés un petit bâton, un petit bâton. Il a dit, le bâton n'est pas assez grand. Subhanallah, comment se fait-il qu'il puisse tout manger? Ce bâton, bien sûr, est devenu comme yani un serpent qui lui-même, à son tour, a tout mangé. Et les sorciers, quand ils ont vu tout ça, ce sont des sorciers. Ils font la différence entre la sorcellerie et la vérité. Ils ont compris que ce qu'a fait Moussa, ce n'était pas de la sorcellerie. C'était quelque chose qui venait sûrement de l'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Ils se sont jetés prosternés. Mais Omar Abdullah subhanahu wa ta'ala a dit, ils ont été jetés. Alors qu'en français, dans la traduction, ils disent, les magiciens se jetèrent prosternés. En fait, non. C'est pourquoi il faut vraiment faire, il faut vraiment être fort en arabe pour pouvoir quoi? Traduire exactement le Coran. Dans le Coran, c'est dit, ils se trouvèrent, jetés prosternés. Le cheikh dit, ce ne sont pas eux qui se sont jetés. C'est comme si c'était plus fort qu'eux. Tellement, ce qu'ils ont vu. Si on voit ça et on est sincère, on ne peut pas se retenir. On se trouve prosterné sans qu'on le veuille. Sans qu'on le veuille. Tellement, tellement, Yanni, c'était un miracle. Un miracle venant de quoi? Venant du Seigneur. Ce n'était pas une chose qu'un magicien peut faire. Alors, ils se jetèrent prosternés malgré eux. Malgré eux, subhanallah al-azim. Alors, c'est là que le pharaon les a accusés. Les a même menacés. Et il leur a dit, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, avez-vous cru en lui? Avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise? Allah adim, vous avez cru en ce magicien avant que je ne vous autorise? C'est comme s'il fallait quoi? Il fallait une autorisation pour croire. Il fallait une autorisation pour croire. Il leur dit, vous avez cru en lui avant que je ne vous y autorise? C'est lui votre chef. Qui vous a enseigné la magie. Le cheikh dit, subhanallah, comment il a pu leur enseigner la magie alors qu'il ne les a jamais rencontrés. C'est la première fois qu'il les rencontre. Il les a rencontrés là devant tout le monde, devant le pharaon. Où il leur a appris la magie? Où? Il n'est jamais resté seul avec eux en tête à tête. Alors ici, il les a menacés. Hein, c'est pharaon. Il les a menacés. Il leur a dit quoi? Il leur a dit, je vous ferai sûrement couper mains et jambes opposées. Mains et jambes opposées. Et je vous ferai crucifier. Je vous ferai crucifier au tronc des palmiers. Au tronc des palmiers. Et vous saurez avec certitude qui de nous est plus fort en châtiment et qui est le plus durable. Donc, je vais vous couper main et jambes opposées. Main et jambes opposées, ça veut dire je te coupe la main droite et la jambe gauche. C'est pas la main droite et la jambe droite, non. Je te coupe la main droite et la jambe gauche. C'est pire, ce sera plus difficile encore. Il leur a dit, et on va voir, non, lequel de nous, il a dit, est le plus fort en châtiment. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit, قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من بينات. لن نؤثرك على ما جاءنا من بينات. Ils ont dit, par celui qui nous a créés, ils ont juré, nous n'allons pas te préférer, jamais on va te préférer à ce qui nous est parvenu comme preuve évidente. Alors, fais ce que tu veux faire. Décrète ce que tu as décrété. Tes décrets ne touchent que cette vie présente. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas nous châtier, punir, ne peut toucher que cette vie présente. Alhamdoulilah, tu n'as pas quoi? Tu n'as pas d'influence et d'impact sur la vie de l'au-delà. Non. Et nous, on dit Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de sorte que la foi, ce qu'il y a dans le cœur et ce qu'il y a dans l'au-delà, personne des êtres humains n'a d'impact sur lui. Imaginez que des gens viennent et vous mettent le couteau sous la gorge, le revolver sur la tempe. Et il te dit, Nam, yani, insulte-le. Comme ça, yani, tu ne vas pas aller au paradis, à ton paradis, là. Tu vas aller en enfer. Alhamdulillah, que même si tu insultes, subhanallah, regardez, la permission qu'a donnée Allah subhanahu wa ta'ala et la grande miséricorde qu'il y a en islam. Même si tu l'insultes, alors que dans ton cœur n'est pas apaisé pour cette insulte, et que par contre il est apaisé pour la foi, non, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas yani, te poursuivre pour cela, ni encore moins te châtier, car tu es sous la contrainte. Aucune personne dans le monde, même si tout le monde va se mettre yani, pas d'accord contre toi, non, ne peuvent avoir impact sur l'au-delà. L'au-delà, c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Il suffit que ton cœur soit apaisé. Si jamais tu es sous la contrainte, il suffit que ton cœur soit apaisé et que toi tu détestes ce qu'on est en train de te faire et les mots que tu es en train de dire ou alors les gestes que tu es en train de faire. Il suffit que tu détestes ces choses-là pour que Allah subhanahu wa ta'ala ne te punisse pas, alhamdoulilah. Alors qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit tout ce que tu peux faire, ça a un rapport seulement avec ce bas monde. Fais ce que tu peux faire. L'essentiel, c'est l'au-delà et tu n'as pas d'impact sur l'au-delà. Ils lui ont dit, Inna amanna bi Rabbina. Nous avons cru en notre Seigneur, Naam, afin qu'il nous pardonne nos fautes. Afin qu'il nous pardonne nos fautes. Ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Et Allah Ta'ala est meilleur et éternel. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala est meilleur et éternel. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dit, il a dit, regardez la foi, quand elle rentre vraiment dans le cœur, et quand la personne est sincère, et un cœur où la foi s'est ancrée, il a dit, c'est impossible qu'une personne alors fasse marche arrière. Il a dit, la personne qui a la foi ancrée dans son cœur, elle est prête à ce qu'elle soit coupée en morceaux, à ce qu'elle soit déchiquetée, elle est prête à ce qu'elle accepte cela, mais qu'elle ne revienne pas marche arrière et n'apostasie pas. Non. La preuve, ils lui ont même lancé un défi. Ils lui ont dit, fais ce que tu peux faire, fais-le. On accepte. On a cru en notre Seigneur Azzawajal. On a cru. Non. Jamais on ne reviendra marche arrière. Mieux encore, non. Nous avons un espoir, grand espoir que Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner nos péchés et nos fautes. Ainsi que la magie. Reconnaissez que la magie, C'est aussi un grand péché. C'est la magie à laquelle tu nous as contraints. Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur et éternel. Non. On va, inshallah ta'ala, s'arrêter ici. La fois passée, on va voir yani, comment que Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés quand ils se sont enfuis avec Moussa alayhi salam et que Pharaon a couru derrière eux avec ses soldats. Subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On va se rencontrer, inshallah ta'ala, on va se rencontrer, inshallah ta'ala, dans un quart d'heure. Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh.
Non, donc les premières questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakum Allah, cher, étant donné qu'Allah Azzawajal voit tout, que nous nous habillons ou non, Allah voit tout notre corps. Pourquoi dit-on alors qu'il faut être pudique envers Allah subhanahu wa ta'ala? Barakallahu fikum. Et avez-vous retrouvé le cheikh saoudien qui fait le takfir des khawarij? Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand l'imam récite des versets sur le paradis, entre parenthèses, pendant la prière en groupe, peut-on faire des invocations, toujours pendant la prière, liées aux versets récités? Si oui, comment les faire? Barakallahu fikum. Allah yunawarkum fid dunya wal akhirah, ainsi que les admins et vos familles. Amin wa iyyakum. Tfadal cheikh.
Mousseline, est-ce que tu as terminé? Alhamdulillah. Donc, j'ai pas entendu. Ah. J'ai entendu la deuxième question sur l'imam, mais j'ai pas compris ce que voulait dire la question. Enfin, il y avait des coupures. Non. Donc, si c'est possible, Inch'Allah, les deux questions, Inch'Allah. Ça y est. C'est bien, donc, tu poses la question et tu écris. Étant donné qu'Allah Azzawajal voit tout, que nous nous habillions ou non, Allah voit tout notre corps. Pourquoi dit-on alors qu'il faut être pudique envers Allah subhanahu wa ta'ala? Avez-vous retrouvé le cheikh saoudien qui fait le tafsir des Khawarij? Bref, la première question, ensuite on va lire la deuxième, inshallah ta'ala. Donc je répète. Je répète. Étant donné que Allah voit tout, que nous habillons ou pas, Allah voit tout notre corps. Ça, voit tout notre corps. Qu'on soit habillé ou pas. Alors pourquoi dit-on qu'on doit être pudique avec Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse, Inch'Allah ta'ala, la réponse, Inch'Allah ta'ala, si je dis juste, ça vient d'Allah. Si c'est faux, ça vient de moi et du shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala, même quand on est habillé, il voit tout. Mais, il nous demande d'être pudique comme dans le hadith authentique. Que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus envers lequel on doit être pudique. Comme ça dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah ta'ala nous demande d'être pudique pour que quoi? Pour que, lui il sait bien sûr, mais il voudrait voir de nous qu'on applique ce qu'il nous demande. Il nous a demandé d'être pudique. Allah Ta'ala voudrait maintenant voir de nous, est-ce qu'il y a une réponse à ce qu'il a demandé, hein, ou bien on s'en détourne et on lui désobéit. Donc nous, même en nous habillant, c'est qu'il est en train de nous voir, il voit nos corps. Mais en nous habillant, hein, on ressent dans notre cœur, alhamdoulilah, qu'on a fait ce qu'on nous a demandé de faire. Hein, on a répondu à son appel, alhamdoulilah. Non, voilà, Inch'Allah ta'ala, la réponse. Ensuite, avez-vous retrouvé le cheikh saoudien qui fait le takfir des Khawarij? Non, le cheikh saoudien qui fait le takfir des Khawarij, ce n'est autre que Cheikh Ben Baz, rahimahullah. Je suis rentré dans le fichier, j'ai trouvé que c'était Cheikh Ben Baz, rahimahullah. Il a dit, dans deux ou trois de ses fatwas, il a dit, ce sont des kuffars, 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 comme ça, en insistant. La deuxième question, quand l'imam récite des versets sur le paradis pendant la prière en groupe, peut-on faire des invocations toujours pendant la prière liées aux versets récités? Si oui, comment les faire? Si on fait dans notre cœur. On ne peut pas, lorsque l'imam est en train de réciter, hein, et nous en train d'écouter au Coran, On ne peut pas faire des invocations. On fait des invocations quand c'est nous qui prions et que la prière est surérogatoire, pas obligatoire. Comme faisait le prophète Sassan. Ça, c'est la sunna. Quand tu es dans la prière nafila, la surérogatoire, et tu lis des versets qui ont rapport avec le paradis, demande à Allah Ta'ala le paradis. Quand tu lis des versets avec l'enfer, demande à Allah Ta'ala t'éloigne du l'enfer. Tu lis des versets de Rahma, demande à Allah Ta'ala de faire descendre sa Rahma sur toi. Seulement, quand c'est nafila, et pas quand c'est obligatoire, et encore moins quand on est en groupe derrière un imam. Wallahu Ta'ala, alam, tafadhal, les deux autres questions. Et si c'est possible, écris-les aussi.
Naam, donc question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si une personne croyante, alhamdulillah, invoque le secours d'Allah, mais que le secours ne vient pas, bi-idhnillah, comment doit-elle se remettre en question? Barakallahu fikum shaykhana, in yuhibbukum fillah, wa ahsanallahu ilaykum. Question suivante. Salam alaykum cher. La magie est-ce une illusion d'optique ou autre chose? Tfadal cher.
Non, alhamdoulilah que les questions sont écrites, car pour dire la vérité, je n'ai pas entendu du tout la deuxième question. Mais alhamdoulilah qu'elle est là affichée en face de moi. Si une personne croyante, alhamdoulilah, invoque le secours d'Allah, mais que le secours ne vient pas, bismillah, comment doit-elle se remettre en question? Barakallahu fikoum, moi, innu hibbukum fillah, moi aussi, ahabbakum Allah, alladhi ahbabtouni fih. Des fois, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala des choses et des fois, il ne nous répond pas. Il n'invoque pas nos vœux et nos souhaits. On a bien dit une fois qu'il y avait un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait que quand la personne demandait une chose à Allah, Allah lui donne une des trois choses. Ou bien il lui invoque. Il lui exauce. Ou bien il ne lui exauce pas, mais enlève de lui l'équivalent du mal. Repousse de lui l'équivalent du mal. Ou bien, troisième des choses, il laisse pour le jour du jugement dernier et il lui répond. Il lui exauce. Il lui exauce là-bas, ça veut dire il lui donne il le favorise par rapport aux autres en lui permettant de faire un vœu, bien sûr. Donc nous, quand on demande une chose à Allah subhanahu wa ta'ala, on doit seulement demander et quoi? Yani, être soucieux dans la demande, ne pas demander avec en étant distrait par exemple, mais demander en ayant un cœur vivant, en levant les doigts, les mains si c'est possible, en faisant les ablutions. Et ensuite, maintenant si ça vient ou ça vient pas, ce n'est plus de notre ressort. Notre ressort, notre fonction, c'est quoi? C'est de demander. C'est une quoi? C'est une adoration. Naam. Dua, huwa l'ibada, comme a dit Ali sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, l'invocation, c'est sa adoration. Donc nous, on adore Allah subhanahu wa ta'ala, entre autres, en lui demandant des choses. S'il ne répond pas, il y a une sagesse derrière cela. Des fois, c'est nous qui ne remplissons pas les conditions. Ou bien on mange l'illicite, on boit l'illicite, on est habillé d'illicite. Comprenez? On fait toujours les grands péchés. Ou bien des fois, on remplit les conditions, mais malgré cela, Allah Ta'ala n'exauce pas pour la sagesse qu'il connaît, qu'on ne connaît pas. Mais c'est toujours un bien pour nous. Des fois, il va t'exaucer. Hein? Il va t'exaucer et ça sera un malheur pour toi. Et des fois, alhamdoulilah, beaucoup de fois qu'il n'exauce pas, c'est un grand bien pour nous. S'il avait exaucé, on aurait peut-être péri. Comme la personne qui demande, par exemple, jour et nuit à Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, je donne un exemple. Par exemple, pour qu'il l'aide, qu'il achète, par exemple, la voiture de sport, celle qui roule le plus vite, et comme ça, mais Allah ta'ala ne lui exauce pas. Allah ta'ala sait que s'il va exaucer à cette personne, qu'elle va acheter cette voiture ou bien cette moto, qu'elle va pas tarder à quoi? À rentrer dans sa tombe. Ou alors à devenir, avoir les pieds amputés ou quelque chose comme ça. Donc, ça rentre dans sa miséricorde que des fois, alhamdoulilah, il n'exauce pas à beaucoup de gens. Et nous, bien sûr, on ne voit que le bout de notre nez. Pour nous, on aime une chose, on voudrait la voir, on ne veut rien comprendre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala sait et nous ne savons pas. Est-ce la magie? C'est une vérité ou une illusion? Ou bien est-ce une illusion d'optique? Vous savez, il y a deux versets dans la magie, deux grands versets. Un verset où il dit un verset où Allah ta'ala dit que les sorciers ont vraiment fait une grande magie. Et le deuxième verset où il dit il a dit que yani, ils ont fait quelque chose yani, aux yeux des gens. Quelque chose aux yeux des gens. Et ces gens-là ont cru voir des choses alors qu'ils n'ont rien vu. Non. Donc si vous allez voir la vie de l'islam dans la magie, vous allez trouver ces deux grands avis. L'avis qui dit que il y a vraiment le cirque et que la chose, c'est-à-dire par exemple en jetant la corde, elle est vraiment devenue un serpent. Et la preuve c'est que Moussa alayhi salam, quand il a jeté son bâton, le bâton a mangé les serpents. Il y avait des serpents, il les a mangés. Pour ceux qui disent qu'il y a vraiment la magie. Et les autres, deuxième avis, ils disent non, c'est seulement, yani on te fait voir, on a pression sur ton cerveau. Alors, tu commences à imaginer des choses et tes yeux commencent à voir des choses alors que ce n'est pas vrai. Mais Allah Ta'ala a l'homme que l'avis le premier est le plus juste, Inch'Allah Ta'ala. Non. Très mal.
Ah, donc, question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Puisse Allah Azzawajal vous rajouter de la science et vous préserver de tout mal. Combien de temps ont vécu les Ad, les Samoud et étaient-ils des gens comme nous? Jazakumullah khayran, cher, et pourriez-vous me dire si vous avez trouvé le livre de Cheikh Al-Fawzan en français, Le dogme du monothéisme? Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Une sœur demande, quel âge avait Pharaon et Moussa alayhi salam? Avant lui, qui dirigeait? Avait-il plusieurs épouses? Cela était-il autorisé en ce temps? Barakallahu fikum, cher. Qu'Allah vous récompense. Tfadal, cher.
Donc pour les deux questions, pour les deux questions, je n'ai pas, inchallah ta'ala, de réponse précise. Mais je vais dire tout ce que je sais. Tout ce que je sais, c'est que combien ont vécu les Ad et les Thamoud, ils ont vécu beaucoup. Beaucoup, mais je ne sais pas exactement combien. Mais pas comme nous. C'est-à-dire 500, 600, 700 ans. Et comme ça. Pourquoi? Car vous savez que, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que plus on va vers la fin des temps, plus l'âge commence à rétrécir. Et vous remarquez que non seulement l'âge rétrécit, mais encore la taille. C'est pour cela que le premier prophète qui s'appelle Adam, que les autres appellent Adam, il a vécu 1000 ans, vous êtes d'accord avec moi, 1000 ans, et combien qu'il faisait de taille? Il faisait 30 mètres. 30 mètres de taille. Et il a vécu 1000 ans. Ensuite, ça commence à rétrécir. Ça commence à rétrécir. C'est pour cela que il faut pas s'étonner quand on dit par exemple qu'il y avait des monstres qui vivaient autrefois. Il y avait des dinosaures. Il y avait. Non, le dinosaure n'est rien comparé à l'être humain d'autrefois. C'est à peu près comme quelqu'un qui fait 1,80 m avec un chat. Un chat ou un lapin. Est-ce qu'un lapin, c'est quelque chose? Imaginez un dinosaure avec qui? Avec une personne qui fait 30 mètres de taille. Qu'est-ce que ça peut être un dinosaure? C'est comme un petit chat. Donc il ne faut pas s'étonner quand on vous parle de dinosaures et de monstres, etc. Car il faut voir combien aussi l'homme faisait de taille. Elle dit premièrement, c'est pour ça que le prophète sallam a dit quoi? Il a dit que, quant à ma communauté, c'est-à-dire nous, que nous soyons musulmans ou bien kuffars, que nous soyons musulmans ou bien mécréants, ou bien non musulmans, on est tous de la communauté du prophète, car c'est lui le dernier. Mohammed, c'est lui le dernier. tous ceux qui sont venus avec lui et après lui font partie de sa communauté. S'ils sont musulmans ou pas, c'est autre chose. Il a dit, ma communauté, son âge se situera entre 60 et 70 ans. Il a dit, et rares sont ceux qui dépassent. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voyez maintenant que quand quelqu'un atteint 80 ans, ça fait vraiment du mashallah, 80 ans. S'il atteint 100 ans, c'est vraiment il peut même rentrer dans le livre Guinness avec, subhanallah, 100 ans. Alors qu'autrefois, 300, 400, 500 ans, c'était rien. C'était comme rien. Et ensuite, elle dit, est-ce que vous avez trouvé le livre de Cheikh Fawzan en français, le dogme du monothéisme? Je ne l'ai pas et je ne l'ai pas trouvé. Non, ce livre-là, je croyais que je l'avais, mais je ne l'ai pas. Je n'ai pas le dogme du monothéisme en français. Je crois que la personne voulait l'envoyer pour que je l'enseigne. Wallah subhanahu wa ta'ala, si elle l'envoie, je l'enseigne, inshallah. Si elle ne l'envoie pas, on verra, inshallah ta'ala, un autre livre. Non. Deuxième question. Une sœur demande, quel âge avait Pharaon et Moïse alayhi salam, Moïse alayhi salam, avant lui, qui dirigeait, avait-il plusieurs épouses, cela a été vraiment. Allahu alam, quel âge avaient Pharaon et Moïse? Allahu alam. Pour Moïse, Moussa alayhi salam, c'est facile. Il suffit juste de rentrer dans un livre qui parle des prophètes, la vie des prophètes. Ce livre, je l'avais, la vie des prophètes, je l'avais même en français, subhanallah, et j'avais fait plusieurs cours sur la vie des prophètes et je l'ai perdu. Or, c'est pas que je l'ai perdu. Je l'ai prêté à quelqu'un et ensuite il a dit qu'il ne sait plus où il est. Anyway, donc, pour savoir combien Moussa alayhi salam a vécu, il suffit juste de rentrer, nous là, de lire un livre qui s'appelle La vie des prophètes. Quel âge avait Pharaon aussi, je ne sais pas. Avant lui, qui dirigeait? Avant qui? Je parle de Moïse ou là, de Pharaon? Je pense qu'elle parle de Moïse, alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Une seconde, inshallah ta'ala, une seconde. Donc je reviens à la question. Avant lui, qui dirigeait? C'est-à-dire avant Moussa alayhi salam. Non. Puis Moussa, en 5 ans, il y avait lui et Haroun. Il y avait lui et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un autre Nabi avec lui qui s'appelle Haroun. Ils s'appellent eux Haroun. Ils étaient les deux ensemble. Et bien sûr, l'autre Moussa dirigeait, l'autre, c'était quoi? Son ministre, disons. Et en même temps, les deux c'était des. C'est Haroun, Haroun. Et les deux c'était quoi? C'était des prophètes, ou des messagers. Avant lui, exactement qui dirigeait, je ne sais pas. Faut que je revienne avec ma mémoire un peu marche arrière. Naam. Avait-il plusieurs épouses? Naam, c'était permis la polygamie autrefois. C'est pour ça que. Il y a un hadith authentique que Suleyman, alayhi salam, qu'ils appellent Salomon, Suleyman, alayhi salam, avait plus de 100 époux, 100 ou plus, et que Daoud, David, en avait 1000. Donc, c'est permis, inshallah ta'ala, c'était permis autrefois la polygamie. Ce n'est pas une bid'a que le prophète, alayhi salam, a fait. Non. Très bon.
Non, question suivante. Salam alaikum. Comment savoir si nous sommes sur la bonne voie? Plus je fais des œuvres et plus j'ai peur du résultat quand les anges viendront me chercher. Comment faire pour être apaisé? Quel est le signe que nous sommes sur la bonne voie? Qu'Allah vous préserve. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakum Allah. Est-il permis de visiter les cités qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exterminées ou de regarder et propager leurs images et vidéos? Jazakumullah khayran. Tfadal, cher.
Je viens de jeter un coup d'œil sur un livre ici qui s'appelle en arabe Qasas al-Anbiya, la vie des prophètes. Il a cité que, il a commencé à citer les messagers. Le dernier qu'il a cité avant Moïse, avant Moussa alayhi salam, il a cité Younous. Il a cité Younous. Ensuite, il a cité Moussa alayhi salam. Est-ce qu'entre eux, il y a des messages qu'on n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala? Pour la première question, comment être sûr qu'on est sur la bonne voie, plus je fais des œuvres et plus j'ai peur du résultat, quand les anges viendront me chercher, comment faire pour être apaisé, quel est le signe qu'on est sur la bonne voie, qu'Allah vous préserve. Amen. D'accord, d'accord. Parce que pour te dire la vérité, quand tu lis les deux questions, je n'entends que la première. La deuxième, ça saute directement. Je dis, nous, maintenant, on fait des choses et des œuvres et des actions, etc., des adorations, pour se rapprocher au maximum de Allah subhanahu wa ta'ala, pour que demain, on espère entrer dans son paradis et on espère qu'il va nous éloigner de son enfer. Et maintenant, quelle est la preuve, par exemple, qu'on est sur la bonne voie ou qu'on ne l'est pas? Quelle est la preuve? Il y a beaucoup de sectes en islam, ça. Vous avez trouvé, par exemple, comme a dit le prophète islam, la dit les juifs se sont divisés en 61, 71 sectes. Les chrétiens vont se diviser en 72 sectes, hein, et les musulmans vont se diviser en 73 sectes. Donc, nous aussi, on est nombreux. La secte des Tablir, la secte des Ikhwan, la secte des Mu'tazili, la secte des Ahbash, la secte des Soufis, la secte des... Moins. Chaque secte va dire, c'est moi qui suis dans quoi? Dans le vrai chemin. Chaque secte va dire, c'est moi qui suis dans le vrai chemin. Maintenant, quel est le repère? Si je vais dire le Coran et la Sunna, tout le monde va dire, moi je suis le Coran et la Sunna. Et moi, qu'est-ce que je suis? Je suis en train de suivre qui? Je suis Karl Marx. Moi, je suis le prophète Aslam et je suis le Coran aussi. D'accord. Donc, jusqu'à présent, tout le monde peut, disons, si ça s'appelle, yani, chanter la même chanson. Alors, comment qu'on va faire? Les repères, ce sont les grands savants. Venez, on va revenir marche arrière et voir qui sont les grands savants. Les grands savants, le premier grand savant, c'est le prophète Ali Soslam. D'accord, ici tout le monde va dire on va suivre le prophète. Le deuxième grand savant, les deuxièmes grands savants, ce sont qui? Ce sont les compagnons. Les compagnons du prophète Ali Soslam. Sur eux, ils étaient présents quand le Coran descendait. Ils voyaient comment agissait le prophète Soslam, comment il adorait Allah. Ils entendaient ce qu'il leur disait. Donc il n'y a pas plus savant que les Sahaba, les compagnons. Et leurs enfants et leurs enfants. C'est pour ça que le prophète a dit, il a dit, les meilleurs des gens, ce sont ceux de mon époque. Et ceux qui vont les suivre, et ceux qui vont les suivre. Donc ces gens-là, ces trois générations, ont une tezkiya. Ils ont les éloges du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si moi je les suis, si je les suis, ça veut dire que je suis en train de suivre des gens auxquels le messager, alayhi wa sallam, leur a donné des éloges. Quand je suis d'autres, hein, il se peut que les autres soient dans l'égarement total. Ils n'ont aucune éloge. Mais quand je suis les Sahaba, ça veut dire que quoi? Que yani, je suis des gens qui ont des éloges venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc, maintenant, nous, on va voir, est-ce qu'on est en train de suivre ce qu'on appelle les salafs. Les Sahaba, ce sont les salafs. Les Sahaba, leurs enfants et leurs enfants. Tout ce que je fais, je vois. Est-ce salaf ou bien je le fais comme ma tête me le dit. Et les salaf vont rester jusqu'à la fin du monde. Car il y a un hadith qui dit que toujours, jusqu'à la fin du monde, va rester un groupe qui s'appelle le groupe victorieux. Non. Et maintenant, les salaf, dans chaque époque, ils sont représentés par les grands savants. Parfois, l'imam Malik, Shafi'i, ensuite... Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, il est grand et comme ça. Enfin, jusqu'à ce qu'on arrive de nos temps. De nos temps, les grands savants qui sont en Arabie Saoudite, qui sont au Yémen, qui sont un peu partout, les grands savants. Non. Ce sont eux les repères. Les repères. Si tu vois que ta aqida, ou bien ton adoration, ou bien ton minhaj, est en désaccord avec les grands savants de nos jours, qui eux, suivent les grands savants d'autrefois et les salafs, ça veut dire que tu es en erreur. Tu es en erreur. Et si maintenant, tu es sûr que tu ne suis que cela, non, tu ne suis pas des choses de ta tête, mais ce que disent les grands savants, hein, reconnus, des sciences, des montagnes de sciences, comme Cheikh Ben Baz, Cheikh Ben Al-Albani, Cheikh Ben Uthaymeen, Cheikh Saïmi, Cheikh Rajihi, et les grands savants, qui ont une tazkiya, non, de tout le monde, qui ont leurs livres devant eux, leurs adeptes, des cassettes, des vidéos, des mohim. Je dis, maintenant, quand tu fais des adorations, et que ces adorations sont en accord avec ce que disent les grands savants, hein, maintenant, si tu sens dans ton cœur que tu as toujours peur et tu n'es pas apaisé, etc., ça peut être même un signe de quoi? Un signe de la foi. Un signe de la foi. Des fois, hein, on est tellement, on aime tellement Allah subhanahu wa ta'ala, on est tellement pur, on est ceci, qu'on a beaucoup peur. On n'a pas d'illusion, on n'a pas de rôle. L'illusion, c'est de dire, hein, de faire juste jeûner une fois ou l'autre et de dire, oh, mashallah, là j'ai tout fait, c'est le paradis qui m'attend. Des fois, non. Hein, tu fais année, jour et nuit et tu as peur. Exactement comme a eu peur. يعني عائشة رضي الله عنها كنت لا دي دون لو فيرسي الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة c'est un verset il a dit ceux qui font ce qu'ils font c'est-à-dire qu'ont bonne œuvre et qui ont toujours peur et qui ont des cœurs qui tremblent c'est un verset qui ont des cœurs qui tremblent il a toujours peur peut-être j'ai pas bien fait peut-être Allah ne va pas pardonner peut-être ceci peut-être cela tout ça te pousse encore à améliorer tes actions et à faire beaucoup d'efforts. Donc, inshallah ta'ala, non, il faut être, inshallah ta'ala, avoir un cœur, yani, il faut être, comment dire, rassuré. Rassuré que, non, quand on a cette chose-là, au contraire, ça veut dire que c'est une bonne chose. Au contraire, ça veut dire que c'est une bonne chose. Et je ne sais pas, je n'ai pas d'illusion. Illusion, ça veut dire faire juste, deux ou trois petites choses et dire, c'est le paradis qui m'attend. Non. Moi, je fais des choses et j'ai peur. Et encore, quelle est la preuve qu'Allah Ta'ala va accepter de moi? Il a dit, il a dit qu'Allah allait accepter des pures. Quelle est la preuve que je suis pur? Nous, on fait, inshallah, subhanahu wa ta'ala, on demande à subhanahu wa ta'ala d'accepter de vous aider. Et le résultat, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus miséricordieux, c'est le tout miséricordieux. Hein, comme il a dit dans le hadith authentique, il a dit, tu fais un empan vers lui, il fait une coudée. Tu vas vers lui en marchant, il vient vers toi en courant. Donc tu vois que sa miséricorde est vraiment grande. Ensuite, je dis à cette personne, que ce soit un frère ou une soeur, pour t'encourager aussi, regarde les personnes qui sont vraiment loin, loin, loin. Regarde d'abord les mécréants, regarde ceux qui ne croient pas, qui passent yani, leur journée dans quoi? Dans yani, la grande désobéissance. Et puis regarde les musulmans qui ne pratiquent pas. Regarde les musulmans qui boivent de l'alcool, les musulmans qui font la fornication, les musulmans qui volent, les musulmans qui mentent, qui ceci, cela, les musulmanes qui ne sont pas voilées, les musulmanes qui font le haram. Et toi, ça va t'aider, tu vas dire Alhamdulillah. Donc, alhamdoulilah, quand je me compare déjà à ceux-là et celles-là, alhamdoulilah, Allah Ta'ala m'a vraiment aimé. Il m'a guidé, il m'a aidé. Je suis, inshallah ta'ala, dans le droit chemin. Bam, ça dit, c'est la première question, inshallah ta'ala. La deuxième, est-il permis de visiter les cités qu'Allah Ta'ala a exterminées, ou de regarder propager leurs images et vidéos? C'est permis de regarder et même de propager les vidéos pour que ça soit. Comment on dit ça? C'est pas une leçon. Ça soit un rappel pour les autres, un rappel. Ce qui n'est pas permis, c'est quoi? c'est si on va dans ces villes-là, qui ont été exterminées, etc., ce n'est pas permis d'y rentrer sans pleurer. Comme a dit le prophète Sassan. Il a dit qu'il ne fallait pas aller là-bas, mais si on y va, il a dit, si on doit traverser, par exemple, cette ville-là, on doit la traverser en pleurant. Et ce n'est pas comme de nos jours. Ils font ça, ils vont voir des choses pareilles, en prenant ça dans le sens de, comment qu'on appelle ça, le tourisme. Le tourisme. Il prend un appareil photo, une caméra, il contemple l'âme, il photographie, il est en train de rire et de boire un jus, etc. C'est exactement, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle quand il y a, par exemple, l'éclipse. L'éclipse lunaire, par exemple. L'éclipse lunaire, c'est quoi? L'éclipse lunaire, c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, quoi, est en colère. Ah. Et il te donne un signe, il te dit, regarde comment j'ai enlevé la lumière à la lune, elle est devenue obscure. Ou bien au soleil, en le cachant derrière l'autre, pour te montrer il peut changer le régime de cet univers. Il peut changer le régime de cet univers. Donc, il te demande de le craindre. C'est pour ça que nous, les musulmans, quand il y a éclipse, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une salade, ça. On va faire la salade de l'éclipse. Et on va faire des aumônes. Tandis que les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont photographier. Ils vont acheter des lunettes spéciales pour les mettre, et aller contempler le ciel et rire et photographier et dire on savait déjà qu'on avait, on avait la date précise que ça allait arriver, etc. Non. Donc il y a une grande différence entre quoi le comportement de celui qui connaît son Seigneur et le comportement de l'ignorant qui suit les gens. Très mal.
Donc, question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-il permis à un prétendant et une prétendante au mariage de s'offrir un cadeau à travers le mahram? Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense pour ses cours bénéfiques. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi cher. Ma sœur voudrait ouvrir un salon pour blanchir les dents. Elle utilise des produits non nocifs pour la santé. Est-ce haram? Quel conseil pouvez-vous lui donner? Barakallahu fikoum. Tfadal cher.
Pour la première question, si on s'offre des cadeaux, si on s'offre des cadeaux via le mahram, ensuite, que ça ne marche pas, il ne faut pas demander le cadeau. Il ne faut pas dire donc rendez-moi le cadeau. Le cadeau, c'est quelque chose qui se donne et qui, jamais on le reprend, jamais on le redemande. Vous connaissez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que quiconque donne un cadeau, ensuite le redonne. Alors le reprend ou le recherche, il a dit c'est comme le chien qui vomit, ensuite il va quoi? Il va lécher son vomissement. Non. Ensuite, il y a autre chose aussi. Quand on n'a pas encore fait le pacte de mariage ou l'acte de mariage, non, tout ce qui doit se passer par l'intermédiaire d'un mahram. Tout ce qui doit se passer par l'intermédiaire d'un mahram. Car il n'y a rien, d'officiel entre nous deux. Et ma soeur voudrait ouvrir un salon pour blanchir les dents. Elle utilise des produits non nocifs pour la santé. Est-ce haram? C'est quoi exactement la question? Est-ce haram pour les produits non nocifs ou bien est-ce haram pour ouvrir le salon? Je vais répondre. Je vais dire si c'est pour les produits non nocifs, donc c'est clair que c'est pas haram. Si c'est pas nocif pour la santé, c'est juste pour faire blanchir les dents. Maintenant, reste une chose à savoir, la deuxième des choses, c'est est-ce halal d'ouvrir un salon pareil? Celui qui blanchit les dents, ou bien il les blanchit par, disons, esthétique, pour que, yani, il soit beau, il devienne beau, comme ça il a des dents blancs, ou bien quoi? Ou bien par mesure d'hygiène. Vous comprenez? par mesure d'hygiène. C'est comme le dentifrice aussi. Donc maintenant, si c'est médical, si c'est par mesure d'hygiène, et que pour la bonne santé, et que les gens viennent blanchir leurs dents, enlever le tartrage, etc., c'est bien, c'est même bien. Mais si c'est maintenant par esthétique, pour que la femme devienne belle, etc., j'ai peur que ça rentre dans le fait d'aider quelqu'un, et aller pour faire le haram. J'ai peur que ça rentre dans le fait d'aider une femme, par exemple, pour qu'elle se maquille et sorte dehors. Comprenez? Donc c'est à vous de savoir, est-ce que c'est pour but médical, par exemple, ou bien pour but esthétique, pour que ça ressemble un peu au maquillage.
Une question suivante. Salam alaykoum wa rahmatullah, cher. Hayakum Allah wa hafizakum Allah. Nous espérons suivre les salafs, mais pour les suivre, il faut les connaître. Que me conseillez-vous pour connaître dans les détails leur aqida afin d'être certaine d'être sur leur pas? Barakallahu fikoum wa in yuhibbukum fillah. Ya Cheikh, qu'Allah Ta'ala vous récompense par le Firdaous ainsi qu'aux administrateurs. Question suivante. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakum Allah Ta'ala. Que doit-on faire des intérêts bancaires? Peut-on les utiliser en payant les impôts, l'assurance de la voiture, acheter des produits pour le toilette? Enfin, peut-on les donner aux pauvres et nécessiteux? Barakallahu fikoum. Tfadal cheikh.
Avant de répondre à ces deux questions, je reviens un peu sur le cabinet dentaire dont on vient de parler. Cabinet dentaire, le salon pour blanchir les dents dont on vient de parler. Wallah, je dis c'est mon avis. Je dis c'est mon avis. S'il y a moyen de demander un savant, ce serait mieux. Mon avis, Wallahu ta'ala, c'est que c'est surtout, les gens viennent surtout pour Wallahu, pour blanchir leurs dents, et aller dans le sens que quelqu'un qui a les dents blanches, c'est plus pur pour la santé, etc. Ou là, c'est pour plaire. Non. Ou là, c'est pour plaire. Je pense que la plupart viennent, non, pour le Allah, je dis Allah, pour que, yani, quand on les voit dans la rue, etc., on plaît aux gens. Allah, car la personne pourrait se suffire par exemple pour dentifrice. Et maintenant, quand elle va spécialement pour payer de l'argent pour que ses dents soient blanches, etc., c'est que vraiment, Wallahu ta'ala, qu'elle a envie que, yani, qu'on voit sa dentition, etc. Mais yani, s'il y a moyen de demander un avis, on a un savant, ce serait mieux, Inch'Allah ta'ala. Pour la personne qui a dit qu'elle m'aimait en Allah, puisse Allah l'aimer comme elle m'a aimé en lui. Nous espérons suivre les salafs, mais pour les suivre, il faut les connaître. Que me conseillez-vous pour connaître dans les détails leur aqida afin d'être sur leur pas? C'est très simple. C'est très simple. Quelqu'un qui veut être sûr qu'il ne s'est pas trompé dans la religion, et surtout aussi dans la aqida, il n'a qu'à se suffire. Il se suffit des livres, naam, écrits par les savants, les grands savants qui ont une bonne aqida. C'est tout. Donc maintenant, de nos jours, alhamdoulilah, il y a beaucoup de livres de grands savants qui ont été quoi? Qui ont été traduits de l'arabe vers le français. Alhamdoulilah. Plein, plein. Tout à l'heure, on parlait du livre, le dogme du monothéisme. Par exemple, le monothéisme, le monothéiste de Cheikh Fawzan, par exemple. Voilà un livre, Cheikh Fawzan, très connu, grand savant, Aqida, Masha'Allah, il a écrit un livre. Cheikh Ibn Uthaymeen a plein de livres de Aqida. Naam. Cheikh Al-Albani, des livres. Al-Muhim. Donc, alhamdoulilah, de nos jours, c'est très facile. Je lis seulement dans la Aqida les livres des grands savants. Je ne lis pas des livres de X et Y sont pas connus pour être de grands savants, mais qui ont peut-être une fausse aqida. Regardez, par exemple, je donne un exemple. Il y a un livre dans la aqida, par exemple, de quelqu'un qui s'appelle El-Bouté. El-Bouté de la Syrie. J'ai oublié comment il s'appelle son prénom, je crois. C'est pas Nasser Ben Bouté. J'ai oublié son nom tellement je l'ai oublié, tellement j'ai oublié cette personne. Quel moyen. C'est un livre, par exemple, qu'il ne faut pas lire. Parce qu'il est connu que dans la Aqida, il n'est pas dans la Aqida des Salaf. Il ne suit pas la Aqida des Salaf. Mais les grands savants, ils sont connus pour leur vraie Aqida. Je lis les livres des grands savants dans la Aqida. Je ne lis pas des savants ou des gens qui ne sont pas connus, ou qui sont connus pour avoir une mauvaise aqida. Comme ça, je suis sûr, Inch'Allah, que je suis dans la bonne voie. Non. Pour les intérêts bancaires, est-ce qu'on peut les utiliser dans les impôts, l'assurance voiture, acheter des produits, toilettes, etc., etc. Les intérêts bancaires, ou bien, comme dit Cheikh Ibn Outaymin, il est interdit carrément de les prendre de la banque. C'est l'avis de Cheikh Ibn Outaymin. Il a donné 6 ou 7 détails, 6 ou 7 points, preuves d'un livre qu'on n'a pas le droit de les prendre de la banque. Et l'autre avis, le deuxième, qui dit qu'on a le droit de les prendre de la banque, hein, celui-là, il dit il faut les donner aux nécessiteux. C'est interdit que ce soit nous qui quoi, qui les utilisons. Sinon, ça veut dire d'un côté, j'ai fait un péché en rentrant dans l'usure, et de l'autre, je vais profiter de ce que me rapporte le péché. C'est incompatible. Donc maintenant, moi, là, je veux me rattraper au contraire. Donc l'argent maintenant qu'on m'a donné comme intérêt, je vais le donner aux nécessiteux et aux pauvres, même s'ils sont de ma famille, ça ne fait rien. Il y a des gens de ma famille qui sont dans le besoin, je commence par eux. Et je ne suis pas obligé de leur dire que ça vient des intérêts. Je ne suis pas obligé de leur dire que ça vient des intérêts. Mais je n'ai pas le droit de les utiliser moi-même. Non. Entre parenthèses, bien sûr, ce n'est pas la peine de vous dire que la personne qui est déjà dans les intérêts, non, qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle aille sortir son argent, non, son capital, pour qu'elle le mette dans une banque où il n'y a pas d'intérêt. Ou à la poste, bien qu'elle le laisse à la maison. Sauf maintenant, si, comme j'ai dit, si on, comme disent les savants, si on a une somme importante et qu'on n'a pas trouvé où les mettre, sauf là où on nous donne les intérêts. Il n'y a pas un autre moyen. Dans ce cas, comme dit Cheikh Ben Baz et les autres, là, il dit, tu mets là-bas, mais les intérêts, tu les donnes à qui? On nécessite. Mais, si c'est une petite somme, j'ai pas peur, comme la vol ou là, je la laisse à la maison. Je ne vais pas la mettre là où on me donne les intérêts car c'est haram. Ça y est, trop de mal. Pour les autres questions.
Non, question suivante. Je vous la colle chère. Assalamu alaikum, Cheikh Anna. Qu'Allah vous anoblisse, vous augmente en science et vous accorde le Firdaous ainsi qu'à votre famille et tous les frères et sœurs présents ce soir. Nous sommes un couple de convertis. Nous avons des enfants. Nous voudrions savoir s'il est permis de faire notre testament chez un notaire pour la garde de nos enfants en cas de décès de mon époux et moi-même. Car selon la loi française, ce sont nos familles mécréantes qui auront la garde, ce que nous ne souhaitons pas. Et donc nous souhaiterions établir un acte notarial afin de confier la garde de nos enfants à un couple de frères et sœurs en cas de décès de tous les deux. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-il légiféré de réciter 10 fois après salat al-subh cette dua? La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahu al-mulk wa lahu al-hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tfadal cher.
Si c'est pour la première question, si maintenant on a peur de décéder les deux à la fois, Car si c'est un seul qui décède, il n'y a pas de problème, c'est le deuxième qui arrive les enfants. Si maintenant on a peur de décéder les deux à la fois, et que on a voulu hein, et on veut sauver les enfants, en faisant ce qu'ils appellent ici, attends, comment ça s'appelle? Un testament. Non, en faisant un testament que les enfants iront vers y a un couple de musulmans, ce serait bien, mais je crois en Allah, à condition de citer qui par exemple? Citer qui par exemple? Car si on va pas citer, c'est qui le couple? Le notaire ou bien l'État ou bien je ne sais pas qui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les donner à un groupe de musulmans qui pour lui ce sont des musulmans, c'est-à-dire des gens, ça, des musulmans, mais des musulmans simples, qui n'appliquent rien. Il dit cela sont des musulmans, ils s'appellent Mohammed, elle s'appelle Aïcha, donc c'est un couple de musulmans. Mais dans ce cas, il faudrait choisir. Choisir, dire tel couple ou bien sinon l'autre couple, sinon comme ça deux ou trois couples connus, Inch'Allah ta'ala, pour leur bon islam et leur piété, Inch'Allah ta'ala. Naam. Pour la deuxième question, il est légiféré, naam. Il est légiféré après Salat Subh et après Salat al-Maghrib. Quand on fait l'adhkar, de dire entre autres, La ilaha illallah, la sharika la, la mulk wa la hamd, yuhyi wa yumit wa ala kulli shay'in qadir, 10 fois. 10 fois, naam. Si vous voulez, je vous donne une idée. Qu'est-ce qu'on dit par exemple après salat sauf ou après salat al-dhuhr ou là en général. Quand on termine, est-ce que vous m'entendez, musulmans? Alhamdoulilah. Donc c'est la première question qui est venue dans le fiqh. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de fiqh. Quand quelqu'un termine la salat, il dit, il se tourne à droite, salam alaykoum, ou bien salam alaykoum wa rahmatoullah par exemple, il se tourne à gauche, salam alaykoum, astaghfirullah, 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 3 fois. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalal wa ikram. Ensuite, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Ensuite, اللهم لا مانع لما أعطيت. Attendez, ensuite, اللهم لا مانع لما أعطيت. ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Ensuite, on peut recommencer. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. Ensuite, لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Ensuite, on peut passer à quoi? Subhanallah, 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 33 par exemple, alhamdulillah 33, et Allahu Akbar, 33. Ensuite, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Ensuite, on dit ayat al-kursi. Et aussi, قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس dans toutes les salats. Ce que je viens de dire maintenant est se fait pour toutes les salats, les invocations que je viens de citer, c'est-à-dire même ayat al-kursi et قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. Seulement si c'est salat subh ou bien salat al-maghrib, on ajoute autre chose comme 10 fois لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نعم. Et maintenant, reste pour comment ça s'appelle avec Snapchat pour l'emplacement. L'emplacement. Est-ce qu'on commence par Tisbih, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Akbar, ou bien on commence par le Coran, et le cours c'est Qulhu Allah, Qul A'udhu Birabbil Falaq, Qul A'udhu Birabbin Nas. Il y a une divergence. C'est pas très clair. Le muhim, c'est que tu fasses tout ce que je viens de dire. Même si ce n'est pas dans l'ordre, moi-même tu as fait l'adhkar, tout l'adhkar, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam, tafadhal.
Une question suivante, cher. Donc elle est un peu longue, je vous la découpe, cher. Salam alaykoum, cher. Pourriez-vous me dire concernant les petits péchés, mais que l'on répète tout le temps? Est-ce que l'on fait tawba, même si on sait qu'on va refaire le même péché et qu'on ne peut pas arrêter? Par exemple, je dors sur le ventre, cher, et quand je le fais, je m'en veux un peu, et donc je me retourne, mais des fois, malgré ce que je ressens dans mon cœur, je ne change pas de position, et je le fais quand même. De plus, j'ai pas la ferme résolution de cesser, même si je sens quelque chose dans mon cœur, comme un regret de ne pas arrêter. Question n'est pas finie. Mais je sais que le lendemain, je ferai la même chose. Je ne sais pas si vous avez compris, cher. Un autre exemple, mon père fume et il a beaucoup de mal à s'arrêter. Alors, est-ce qu'il doit faire taouba après chaque cigarette, même s'il sait très bien qu'il va devoir en prendre une autre? Barakallahu fikoum de répondre aux deux exemples. Qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis, ya Cheikhana. Question suivante. Concernant un rêve, cher. Salam alaikum, cher. Voilà, j'ai fait un rêve où le soleil s'approchait de moi, presque jusqu'à mes pieds. Et plus il s'approchait, plus il s'assombrissait. J'ai donc eu peur et je me suis réfugié derrière mon ami. Et mon ami a mis un coup de pied sur le soleil qui s'est cassé comme une coquille et s'est éclairé. Qu'en pensez-vous? Tfadha, cher.
Pour la première question, la personne doit faire la tauba après chaque péché. Non. Après chaque péché qu'on fait, on doit faire la tauba et on ne dit pas que c'est pas la peine d'en faire, car quoi? Car je vais faire encore le péché, comme pour la personne qui fume. Ainsi que c'est interdit. Donc elle va dire à quoi ça sert de faire tauba, puisque quoi? Puisque je vais refumer. Non. Au moins, tu as fait tauba. Ça a été écrit chez Allah subhanahu wa ta'ala que tu es quelqu'un qui, à chaque fois qu'il fait le péché, se repent, alhamdoulilah. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith authentique, il a dit que mon serviteur a fait un péché. Ensuite, il a demandé pardon. Ensuite, il a refait le péché. Ensuite, il a demandé pardon. Ensuite, la troisième fois, il a fait le péché, il a demandé pardon. Ensuite, Allah ta'ala a dit, mon serviteur sait que yani, Allah subhanahu wa ta'ala, le voit ou quelque chose comme ça. C'est un hadith authentique. Il dit qu'il sait qu'il a Allah, qu'il y a Allah ta'ala, et qu'il lui pardonne. Donc voilà le délit. Ensuite, pour la personne qui va fumer, quelle est la preuve qu'elle va refumer dans une demi-heure? Il n'y a aucune preuve. Peut-être qu'elle va mourir avant de prendre une autre cigarette. Et maintenant, si elle meurt avant de prendre une autre cigarette, elle n'a pas fait tauba. Elle a fumé et elle n'a pas fait tauba. Et elle va mourir dans une demi-heure. Comment qu'elle va faire avec l'Osmanat? Elle est morte en faisant un péché, sans faire tauba. Donc, moi je dois faire tauba après chaque péché, car je ne sais pas ce qui va arriver ensuite, au moins pour inscrire dans mon livre, le livre qu'on a sur le cou, et qu'on ne voit pas, que quoi? Que, alhamdoulilah, j'ai eu quand même peur et j'ai fait la tauba. Ensuite, pour la première question, la personne qui dit elle dort sur son ventre. Dormir sur le ventre en islam, c'est interdit. D'abord, question de santé. Si on dort sur le ventre, on bloque son estomac et les intestins, etc. Et on risque de se faire mal. Médicalement, donc, ça fait mal et c'est pas bien pour la santé. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu quelqu'un dormir sur le ventre. Il lui a dit, cette position-là est une position que Allah Ta'ala n'aime pas. Yubridu Allah. Hadihi dhaj'atun yubridu Allah. C'est une position que Allah Subhanahu wa Ta'ala hait ou bien déteste. Donc comment je vais me mettre dans une position alors que je sais que Allah Ta'ala déteste cette position et ne l'aime pas? Vous comprenez? Moi j'aimerais être dans une position que Allah Ta'ala aime. Par exemple, Allah Ta'ala aime me voir incliné dans la prière, aime me voir dans le sujoud. Donc quand je suis incliné ou bien dans le sujoud, je dois trouver un grand plaisir car je suis en train de ravir mon Seigneur. Imagine maintenant le contraire. Allah Ta'ala me voit et me trouve dans une position que lui n'aime pas, il déteste et qu'il ne voudrait pas que je sois dans cette position. Donc, je dis à cette personne, il faut faire des efforts. Toi, subhanallah, nous, en général, est-ce qu'on a fait le djihad? Est-ce qu'on a pris les épées, les sabres? On est allé combattre les ennemis comme On fait des messagers avant nous. On n'a rien fait. On nous demande juste le djihad du nefs. Subhanallah. Je ne peux même pas me commander dans la façon de dormir. C'est mon corps qui me commande. Ça ne demande que quoi? Ça ne demande que les premières minutes. Ensuite, quand je dors et je perds conscience, car quand on dort, on perd conscience, dans ce cas-là, si je dors sur mon ventre ou mon dos là, c'est pas moi le responsable. Mais tant que je suis conscient, j'essaye d'être sur mon flanc droit. Si je peux pas, sur mon flanc gauche. Si je peux pas, à la rigueur, sur mon dos. Mais j'essaye au maximum d'être sur mon ventre. Même si vraiment il y en a quelque chose me pousse à fond, alors je me mets pas carrément sur mon ventre en ouvrant par exemple mes deux mains. En ouvrant par exemple mes deux bras. Mais j'essaie au moins de me pencher un peu vers la droite pour que je ne sois pas carrément sur mon ventre. Non. Un peu pour que je sois un peu aussi sur le flanc droit ou le flanc gauche, pour ne pas être en face. Allah l'a dit, c'est juste quelques minutes, ensuite on dort, et quand on dort, là, on sait plus ce qu'on fait. Donc je dis à la personne, il faut yani, craindre Allah subhanahu wa ta'ala, yani, et faire des efforts. Faire des efforts, ce n'est pas une chose yani, vraiment, vraiment difficile. Juste faire des efforts yani, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, comme j'ai dit, au moins dormir sur le dos. Non, pour éviter cette situation. Pour l'entendre, Mousselina, si tu m'entends. Alhamdulillah. Donc, je viens de rentrer dans le salon. Hein. Une seconde, Inch'Allah ta'ala. Tu as dit, voilà, j'ai fait un rêve où le soleil s'approche. Ça, j'ai oublié. Non. Non pour le whisper. Non pour le whisper. Regardez pour les rêves. Les rêves. Ce n'est pas tout rêve en islam. Ce n'est pas tout rêve qui a une interprétation. Et quand il a une interprétation, ce n'est pas tout le monde qui peut interpréter. Ce n'est pas comme ce que vous voyez à la télé, dans certaines chaînes où il y a quelqu'un qui s'assoit et on téléphone et tout ce qu'on lui dit, il te trouve l'interprétation. Tout ce que tu lui dis, n'importe quoi. J'ai rêvé une voiture rouge, il va donner une interprétation. J'étais sur une voiture bleue, il va donner une interprétation. La voiture avait quatre roues, c'est une interprétation. Si elle avait trois roues, une interprétation. Si elle a le guidon, le volant à droite, c'est une interprétation. Vu le toit ouvert, il va donner une interprétation du rêve. Et comme ça. Tout ça, c'est mensonge sur mensonge. Et rien de ce que dit cette personne n'est vrai. Je disais, le rêve, il se divise en trois sortes. Celui qui vient d'Allah, celui qui vient du shaitan, celui qui vient de nous. Celui qui vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui, dans le rêve, ça te fait plaisir. Ça te donne de la joie. Tu te réveilles, masha'Allah. Et quand tu penses à ce rêve, tu es tout joyeux, alhamdoulilah, plein de bonheur. Il vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui-là, on ne doit le raconter qu'à celui qu'on aime, comme a dit le prophète. On ne le raconte pas à tout le monde. Car même dans le rêve, il y a des jaloux. Comme a dit Allah ta'ala dans le Coran. Il a dit au père de Youssouf. Le père de Youssouf lui a dit, ne le raconte pas à tes frères. Non. Ils seront jaloux. Il lui a dit, ne raconte pas ce rêve que tu as vu. Yani 12, les 11 astres se prosterner à toi, car tes frères vont te faire quoi? Vont te faire yani, un stratagème. Quand il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on est heureux, on sent la joie dans le cœur, on ne le raconte qu'aux intimes, les amis qu'on aime et qui nous aiment, qui ne sont pas jaloux de nous. Maintenant, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala aussi de le réaliser. Maintenant, la deuxième sorte, c'est quand le rêve vient du shaitan. C'est quoi le shaitan? C'est comme a dit le prophète, il a dit, tout ce qui te fait peur dans le rêve. quand tu rêves que tu tombes du ciel, tu tombes de l'immeuble, quelqu'un court derrière toi avec un couteau, quelqu'un avec des armes qui veut te tuer, quelqu'un qui veut... Tout ce qui te fait peur, non, tu te retournes de l'autre côté, tu craches sur ton épaule gauche toujours, tu dis à W. Et tu tournes de l'autre côté, si tu es sur le flanc gauche, tu dors sur le flanc droit. Si tu es sur le flanc droit, tu dors sur le flanc gauche, tu te retournes. Mais quant au crachat, il ne doit être que sur le côté gauche, l'épaule gauche. Et tu demandes à Allah de te préserver. Et le hadith a dit, s'il fait encore deux prières, ce serait mieux. Ce n'est pas obligatoire. Et ce rêve-là aussi, tu ne le racontes aussi à personne. Tu ne le racontes aussi à personne. Pourquoi? Car tu l'as effacé. Tu as craché. De d'éloigner de toi ce rêve. Donc, ce n'est pas la peine d'aller raconter aux gens et de dire j'ai peur, j'ai vu ce rêve. Tu n'as peur de rien. Ne raconte pas. Tu l'as effacé, Inch'Allah. Il ne va pas se réaliser. Il va... Maintenant, si tu vas raconter aux gens, c'est que tu as des doutes, tu as peur. Tu dis j'ai vu cela et j'ai peur. Donc, tu as des doutes. Donc, tu ne crois pas au hadith qui t'a dit si tu craches. Il va pas se réaliser. Donc, tu émets le verbe émettre. Tu émets des doutes. Maintenant, si tu es sûr qu'il va pas se réaliser, comme a dit le prophète, il faut pas raconter, tu as craché, khlas. Al-Mouef. Ou alhamdoulilah, je veux dire, on parle d'alhamdoulilah, qu'il y a cette alternative en islam. Sinon, vous ne pouvez pas vous imaginer combien qu'on serait malheureux. Nous tous. Presque une fois par mois, deux fois par mois, on voit des choses qui, alhamdoulilah, ne se réalisent pas, viennent du shaitan. Des choses qui te font vraiment peur. Que ton fils va mourir, que ton mari va mourir, que toi tu vas mourir, que alhamdoulilah, que tout ça n'est pas vrai, on crache et alhamdoulilah, tout est parti. La troisième sorte, ce qui a un rapport avec la question, la troisième sorte, ce sont des choses qui, des fois, viennent de nous, ni d'Allah, ni du shaitan. C'est toi qui, ton nefs, toute la journée, tu as pensé à des choses, ou bien cette chose, tu vas la voir dans, par exemple, le soleil, dans le rêve, sont des choses qui ne sont pas bien comprises et comme ça. Pour que vous compreniez, quelqu'un a dit au prophète, quelqu'un a dit au prophète, j'ai vu ma tête se détacher de moi et tomber par terre. Ensuite, j'ai fait quelques pas. Je l'ai prise et je l'ai remise sur mon cou. Vous avez entendu? J'ai vu ma tête se couper, se détacher de moi, tomber par terre. Ensuite, je l'ai reprise et je l'ai mise sur mon cou. Si c'était nous, qu'est-ce qu'on va dire? On va sûrement me demander à comprendre c'est quoi ce rêve. Ensuite, ce rêve, il fait peur. Ma tête qui va se couper. Donc, peut-être que je vais faire un accident grave. Mais ensuite, après, je vais dire, mais alhamdoulillah. Ensuite, j'ai remis ma tête sur mon cou. Donc, je vais faire un accident grave qui va frôler la mort. Ensuite, on va faire une opération chirurgicale ou je ne sais pas quoi. Et alhamdoulillah, je vais y aller retrouver ma tête. Et je vais guérir. Donc, c'est toujours grave. Ça, oh là là là. Cette personne-là, quand elle a raconté au prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, alayhi sallam, car la personne voulait une interprétation. Il lui a dit, alayhi sallam, il a dit comme ça. Il lui a dit, quand le shaitan joue avec quelqu'un de vous, il ne faut pas qu'il raconte aux gens. Il lui a dit, ça veut dire, c'est shaitan qui a joué de toi. Ne raconte pas aux gens. Vous voyez que ça vient du shaitan? Et pourtant, non, si c'était nous, on aurait cru que... Il fallait une interprétation et que c'est grave. Non. Il y a des choses qui viennent comme ça, et on voit. C'est pas clair. C'est pas... Comme ici, par exemple. Je vois le soleil, ensuite le soleil, je lui donne un coup de pied, etc. Je lui dis quoi? Je lui dis, allez, je raconte pas ces choses. Et ça s'arrête là. Ou alors, dans le pire des choses, la pire des choses, qu'est-ce que je fais? Je donne toujours une bonne interprétation. Je donne toujours une bonne interprétation. Je dis que. C'était sombre, le soleil s'assombrait. Ensuite, alhamdoulillah, ça va quoi? Ça va s'éclaircir de nouveau. Donc, Inch'Allah ta'ala, ça va y aller dans le bon sens. Car c'était sombre et c'est devenu clair à la fin. Donc, tu dis toujours que Yani c'est des problèmes qui vont être réglés, c'est des problèmes qui vont être résolus. C'est mon iman qui va yani, augmenter. C'est, alhamdoulillah, c'est l'issue qui va venir. Et comme ça. Mais jamais je l'interprète d'une mauvaise façon, inshallah ta'ala. Hey, Muslim, est-ce que tu vas, inshallah, nous honorer en nous posant, inshallah ta'ala, les deux dernières questions?
Naam, cher. Juste une précision, Inch'Allah, sur la question des petits péchés. La sœur dit, concernant la taouba, sur les petits péchés, est-ce que la taouba est acceptée, sachant que vu que l'on va refaire le même péché, c'est que nous n'avons pas été sincères. Tfadal, cher.
Non, on a été sincère, comme ça disent les savants. Le fait d'accepter de faire la tawbah et d'être aidé par Allah pour l'avoir faite, parce que si Allah Ta'ala avait voulu, j'aurais pas fait la tawbah s'il n'avait pas voulu. Donc déjà qu'il m'a aidé à Azzawajal, il m'a laissé faire la tawbah, il m'a aidé pour la faire. Oh, alhamdoulilah, j'étais sincère dans le moment où j'ai fait la tawbah. Quant à ce que j'ai fait encore, c'est quelque chose de séparé, c'est autre chose. Quand je fais le péché, je fais la tawba, même si je sais qu'après je vais faire le même péché. Ça, c'est autre chose, l'essentiel. Quand je fais le péché, je fais la tawba. Comme ça, on dit les savants. Tawba.
Naam, cher. Donc, les deux dernières questions, Inch'Allah. Donc, la première. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Lors d'un cours précédent, vous expliquiez la façon de procéder à l'essuyage des chaussettes. Mais je n'ai pas bien compris. Si je fais mes ablutions sur mes pieds, puis je mets des chaussettes sans faire d'essuyage, puis les rechange encore, est-ce que je peux faire l'essuyage sur la deuxième paire? Ou dois-je d'abord faire sur mes pieds? Jazakumullah khairan. Question suivante. Salamu alaikum. Est-il permis de faire ce travail? J'appelle des gens pour leur proposer un rendez-vous avec quelqu'un qui propose de trouver quelqu'un qui la rachète, donc concernant une entreprise. S'ils veulent arrêter leur entreprise et la revendre, une personne me payerait pour que je prenne des rendez-vous pour ça. Mes patrons se font de l'argent en proposant ce service. Ça peut être des entreprises de n'importe quoi, vêtements pour femmes, alimentation non halal, etc. Je n'aurai pas le droit de trier et je ne saurais pas quoi dire à mon patron. Il trouverait ça bizarre que je lui dise non pour ça et ça. Que faire? Est-ce que je pêche si j'aide à la revente d'entreprises de choses pas forcément bien? Barakallahu fekoum. Fada cher.
Alhamdulillah. Allah Ta'ala dit dans le Coran, wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Il a dit, aidez-vous dans le bien et la piété, et ne vous aidez pas dans la transgression et la turpitude. Maintenant, moi, ce que je vais vendre, il faut que je sache ce que c'est. C'est d'abord parmi les conditions de la vente. Vous savez qu'il est interdit que je vende quelque chose que je ne sais pas. Je vous donne un exemple. On me dit, ce qu'il y a dans ce carton, c'est 10 euros. Sans que je sache ce qu'il y a dans le carton. Ensuite, j'ouvre le carton, je peux trouver ou bien des bonbons qui ne coûtent que 50 centimes ou là 1 euro, comme je peux trouver, par exemple, 1 kilo d'or à l'intérieur. Je l'ai acheté pour 30 euros. C'est haram ou là c'est halal? C'est haram, c'est de la loterie. Pourquoi c'est haram? J'ai acheté une chose sans savoir ce que c'était. Vous comprenez? Parmi les conditions de la laïcité, que ça soit licite de la vente, parmi les conditions, l'une d'elles, c'est la parfaite connaissance de la marchandise. Par contre, c'est permis quoi? C'est permis que j'offre une chose que je ne connais pas. Je te dis, voilà, je t'offre ce qu'il y a dans ce carton. Toi, tu le prends. Pourquoi? C'est une offre. Tu n'as pas acheté. Si tu trouves des bonbons, tu dis, si si tu trouves 1 kilo d'or, tu dis Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a gratifié. Mais tu n'as pas acheté. Donc ici la personne, je lui dis, tu n'as pas le droit, Nam, de vendre ou là, de rentrer dans quelque chose qui se vend sans que tu saches ce que c'est. Peut-être, tu vas être la cause pour qu'on vende un bar. C'est un bar qui est en vente. Peut-être tu vas être la cause pour la vente d'une discothèque. Imagine, une discothèque qui va se vendre ou bien un bar, tu as été la cause. Maintenant, à chaque fois qu'une personne va danser ou boire de l'alcool, tu vas partager avec lui des ithmes, des péchés. Tu voudrais toi ça? Qui voudrait ça? Tu mourras. On te mettra dans la tombe et les péchés viendront dans la tombe. Car la discothèque va rester des années, des centaines d'années pour qu'elle se détruise. Vous comprenez? Des milliers de gens vont danser, boire de l'alcool et t'envoyer des péchés dans la tombe. Je suis fou, moi, je suis fou. Pour 100 euros, là, je ne sais pas combien qu'il va payer la personne, 200 euros, là, je ne sais pas, je vais vendre mon dîne, moi. Bon, si je vends quelque chose, faut qu'il me dise, qu'est-ce que je vends? Dis-moi, qu'est-ce que vous voulez vendre, monsieur? Donc la personne dit, je n'ai pas le tri. Tu n'as pas le tri, tu ne peux pas choisir, mais tu peux choisir une chose, quoi? Tu peux choisir entre la vie d'ici-bas et l'au-delà. Choisis l'au-delà. Dis-lui, j'accepte pas ce travail. J'accepte pas ce travail, monsieur. Je ne sais pas ce que je vends. Ou bien, si vous me donnez la permission, même, que je puisse choisir, là, d'accord, je travaille avec vous. Et si vous me dites, c'est pas possible, donc cherchez une autre personne, Inch'Allah. Pour la personne qui a parlé des chaussettes, qui n'a pas compris, elle dit, si je fais mes ablutions sur mes pieds, puis je mets des chaussettes. Elle n'a pas essuyé. Ensuite, elle enlève les chaussettes, elle en met d'autres. Est-ce qu'elle peut essuyer sur les chaussettes? Elle peut. Je dis à cette personne, pour que tu comprennes bien, tu peux essuyer sur les chaussettes dans le cas que tu viens de me dire maintenant. Et pour terminer, pour ceux qui peuvent et ont un bon niveau et peuvent comprendre bien les choses, je vais leur donner la règle de l'essuiement sur les chaussettes. Regardez. Il y a trois cas de figure. Le premier cas de figure, j'ai fait mes ablutions, alhamdoulillah, j'ai mis mes chaussettes, j'ai mis mes ablutions et j'ai mis mes chaussettes. C'est le premier cas de figure. J'ai mis mes ablutions. Ensuite, j'ai mis mes chaussettes après ablution. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, je les enlève. Je les enlève et qu'est-ce que je mets? Je mets d'autres chaussettes. Je n'ai pas encore essuyé sur les premières chaussettes. Dans ce cas, il n'y a aucun problème. J'y suis sur quoi? J'y suis sur les nouvelles chaussettes que je viens de mettre. Deuxième cas de figure. J'ai mis les ablutions, j'ai mis mes chaussettes. Ensuite, j'ai perdu les ablutions. J'ai perdu les ablutions. Ensuite, j'ai mis d'autres chaussettes dessus. Maintenant, c'est le moment de la salade. Je ne peux pas essuyer sur les deuxièmes chaussettes. Je dois les enlever pour pouvoir essuyer sur les premières chaussettes. Troisième cas de figure, j'ai fait les ablutions, j'ai mis les chaussettes. J'ai perdu les ablutions. J'ai essuyé sur les chaussettes. Après avoir essuyé sur les chaussettes, j'ai mis d'autres chaussettes. Est-ce que je peux essuyer sur les nouvelles chaussettes? La plupart des savants disent on ne peut pas. On doit essuyer sur les premières chaussettes. Cheikh Ben Rahmallah dit c'est possible. Il dit on peut essuyer soit sur les premières chaussettes ou là sur les dernières chaussettes. C'est-à-dire soit sur celles qui sont collées aux pieds ou bien celles qui sont au-dessus, sur les autres chaussettes. C'est-à-dire dans les deux sortes de chaussettes, on peut essuyer dans ce cas, Inch'Allah. Si vous avez compris, Alhamdoulilah, si vous n'avez pas compris, rappelez-moi pour que dans le prochain cours, je réexplique ces trois cas de figure, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À mercredi, inshallah ta'ala.